Je tenais absolument que cette année, dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire du Front populaire, que l'on puisse en parler, puisqu'on le fait, l'éducation populaire, pour certains d'entre nous qui sommes là à différents niveaux. Mais est-ce qu'on peut en conscience, ou comme M. Jourdan, on en parlait tout à l'heure. Donc je souhaitais inscrire dans ce cadre-là quand même trois séances consacrées à l'éducation populaire pour que nous revisitions ou visitions ensemble certains concepts. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi qu'est-ce qu'on fait ensemble comment on le fait pourquoi on le fait? Donc c'était de réinterroger un petit peu parce qu'il y a une deuxième séance qui sera beaucoup plus consacrée à l'historique, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui de temps en temps d'aller revenir sur ce point-là. Donc, pour pouvoir parler de tout ça, donc j'ai invité deux personnes voilà, qui savent tout et qui se complètent très bien. Alors, j'ai...
Non, tu ne savais pas qu'elles se connaissaient. Tu...
Et en plus, je ne savais pas qu'elles se connaissaient quand je les ai contactées. Donc, Françoise Détard, qui est historienne, je lis mon papier parce que c'est long, ingénieure au CNRS.
Oui, ça c'est vrai.
Centre d'histoire sociale du XXe siècle.
Ça c'est le nom du laboratoire.
Voilà. Dernière publication que j'avais à l'époque, c'était les centres sociaux de 1880 à 1980. Une résolution locale de la question sociale. Donc là-dessus, vous avez tous les...
Hein. Ça, c'est un bouquin sur l'histoire des centres sociaux, un bouquin collectif.
Et depuis, tu as écrit un autre qui va sortir, là.
Oui, qui est sorti, c'est un peu différent, mais je parle un peu d'éducation populaire. C'est sur la prévention spécialisée, les éducateurs de rue.
Voilà.
Et d'ailleurs, je viendrai le présenter à Montreuil, par l'association Rue et Cité, voilà, le 14 novembre.
Donc, on va essayer.
Mais c'est un autre sujet, là, un autre sujet.
Et aussi Gérard Contrepoulin, lui qui est quelqu'un qui est plus du terrain, donc dans tout ce qui est concret, mais il met aussi.
Moi, je ne suis pas du terrain,
qui s'éloigne du terrain. Et il me dira comment et pourquoi.
Je revendique.
Et donc, le secrétaire général adjoint du syndicat d'éducation populaire, UNSA Éducation, responsable de la coordination UNSA Animation, chargé d'éducation populaire et de jeunesse, direction départementale jeunesse et sport. Voilà, direction départementale jeunesse et sport. Voilà. Donc, apparemment, la bonne surprise, c'est qu'ils se d'une part, ils se connaissaient et qu'ils ont été déjà invités ensemble à des rencontres de ce type. Et qu'en plus, ils ont remarqué qu'ils se complétaient admirablement. Donc, j'ai dit, c'est formidable. Alors, bon, c'est toujours un petit peu compliqué par où on commence, mais c'est vrai que l'histoire, mon ami éducation populaire, M. Jourdan, pratique consciente, ça, c'est déjà un des bouts de ficelle qu'on peut tirer. On sait tout le monde, c'est que M. Jourdan faisait ça de la France sans le savoir. Mais le problème, c'est qu'il avait, il ne savait pas qu'il en faisait. Donc, il y a l'histoire de la conscience. Conscience, ça veut dire aussi, ça veut dire qu'on a, c'est conscient parce qu'on a un objectif à atteindre. Donc, la question était, est-ce que toutes les associations qui existent relèvent de l'éducation populaire ou non? Et qu'est-ce qui fait qu'ils relèvent de l'éducation populaire? Donc, voilà, je vous laisse la parole, déjà sur ces deux questions un petit peu qui se répondent l'une à l'autre.
On a dit que tu commences, c'est Gérard.
Ah
ouais. On sait.
Alors,
c'est
oui.
Ce message-là.
Dire de l'éducation populaire que c'est un peu comme M. Jourdan et la prose, on n'en fait pas forcément en le sachant. C'est à peu près une évidence, du moins pour nous. Mais avant peut-être de creuser davantage. Et si j'étais un universitaire, je dirais commençons par donner une définition de l'éducation populaire. Voilà. Et ceux qui connaissent un petit peu ce genre de débat savent que si nous commençons vers 3 heures du matin, je vous demanderai une pause et nous reprendrons ensuite. Pourquoi? Et bien simplement parce que l'éducation populaire a une finalité, un objectif, partagé ou pas. Il y a aussi des différences dans le vaste monde enchanté de l'éducation populaire. Cette finalité, c'est la transformation sociale. On partage ou on ne partage pas. Qu'est-ce qu'on entend? C'est un petit peu comme le système du Larousse. On cherche un mot qui renvoie à un autre, etc., etc. Tout simplement parce que l'éducation populaire s'adresse très directement aux individus et aux individus comme êtres sociaux. De deuxième élément que je pourrais ajouter, si vous voulez, c'est que il y a éducation dans l'éducation populaire. C'est-à-dire qu'on se propose simplement, l'éducation populaire se propose de faire évoluer les individus et les groupes qui sont constitués dans une perspective de conscience de soi, de conscience de ce que l'on est, de conscience de ce qu'on peut, en tout cas de connaissance, de découverte de ses propres possibilités. Et à partir de là, on peut brosser tous les champs possibles et imaginables. C'est un peu comme la philo, vous pouvez commencer par n'importe quel bout, vous entrerez toujours à un moment ou à un autre dans le vif du sujet, parce qu'on va parler de l'individu et de sa capacité à entretenir des relations avec quelqu'un d'autre. Par exemple, on peut aussi définir l'éducation populaire, c'est souvent d'ailleurs une facilité, on va dire ça entre nous, de dire mais l'éducation populaire, c'est des activités. Dans une maison de jeunes, dans un centre, il y a le cinéma, il y a le macramé, la peinture sur soie, la cuisine, la poterie, etc. Donc ça, c'est de l'éducation populaire. Ben, je vais poser la question autrement. Il y a aussi, parmi les activités qui sont dites d'éducation populaire, le fait que, par exemple, on fasse de l'alpinisme et qu'on passe de l'altitude 500 mètres à l'altitude 3000 mètres en 2 heures ou en 15 jours. En 2 heures, ça risque pas fort d'être de l'éducation populaire. On va se diriger vers une technique, vers de la compétition, vers un savoir-faire technique qui intéresse que de très loin l'éducation populaire. Par contre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire en 15 jours pour passer de l'altitude 300, 500 à 2000 ou 3000? Tout le problème est là. Quels sont ces domaines que des individus réunis dans un groupe, une équipe, 3, 4, 5, 6, 10, vont bien pouvoir faire pour mettre autant de temps à faire ce qu'il peut de dénivelé? Là, on touche de près à quelque chose qui est la relation interpersonnelle, la découverte du milieu, une espèce de culture des relations. Peut-être que après cette expérience-là, et les uns et les autres seront plus tout à fait les mêmes. Et en tout cas, ce qui se sera produit, c'est la capacité de s'adapter les uns aux autres, la capacité de s'adapter à un milieu, la capacité de concevoir des projets ensemble, etc., etc. C'est toute la différence que nous avons, nous, dans mon beau ministère, entre la jeunesse et les sports. C'est-à-dire que la compétition n'a rien à voir avec l'éducation populaire. C'est pas tellement dans les activités, autre exemple, il y a le théâtre, il y a la danse, il y a la musique, etc. Est-ce que l'objectif, c'est de faire un spectacle beau, réussi? Ça gâche rien s'il l'est aussi. Nous sommes bien d'accord. Néanmoins, le théâtre, par exemple, tout ce qui va permettre de progresser dans le montage d'un spectacle, dans la confection des décors, dans le simple fait de se réunir pour faire, prendre la décision de le faire. Tout ça, nous pensons, sauf si c'est hyper dirigé par un grand patron qui va mettre tout le monde dans sa petite case et prédessiner la route sur laquelle ils vont, si c'est pas ça, c'est-à-dire en gros si c'est une activité pour laquelle des gens se rassemblent, d'abord après l'avoir décidé, puis qu'ils cheminent vers ce résultat-là, eh bien, cette action-là génère forcément quelque chose de positif à la fois pour les individus et aussi pour le groupe. On va savoir prendre une décision ensemble. À propos du théâtre, on va apprendre à décider des choses ensemble. Mais si on a su le faire à propos du théâtre, peut-être qu'on peut transporter ce savoir-faire appris ailleurs. Peut-être que quand on va être frustré de ne pas avoir pu être concerné ou consulté sur telle ou telle chose, j'en sais rien moi, l'aménagement d'une rue, d'un square, etc., peut-être qu'on va se dire, mais attends, pourquoi je n'ai pas été consulté? Et donc, nous mettons en route, l'éducation populaire permet de mettre en route ce type de mobilisation, ce type de prise de conscience. C'est un gros mot, hein. Ben, allez, on va l'employer quand même. Met en route ce type de réaction. C'est en ce sens qu'on va faire la différence entre des activités dont l'objectif c'est l'occupation, être là pour faire quelque chose, et la perspective éducative d'une activité qui se référera pour le coup là à l'éducation populaire. Alors, à partir d'une définition comme ça, eh ben, il y a un certain nombre de choses qui sont de l'éducation populaire sans le savoir. Parfois même, d'ailleurs, qui se disent « Ah tiens, mais c'est vrai, on est d'éducation populaire. » Moi, j'ai un très bon exemple de ça. Vous l'avez, maintenant, c'est très connu. Mais il y a 7-8 ans, ce n'était pas forcément évident. Lorsque le mouvement ATTAC s'est constitué, c'est-à-dire des gens qui, dans un coin, discutent de choses importantes, l'économie, alors c'est pas évident pour tout le monde, immédiatement, de comprendre comment fonctionne la fabrication des prix, les relations internationales dans le domaine commercial, c'est pas forcément immédiat quand on n'a pas la formation pour. Pourtant, dans les groupes de base, c'est ça qui m'intéresse à ce moment-là du propos, eh bien, quelque chose de cette même nature-là s'est mis en route. Et après, ils se sont dit, mais on fait de l'éducation populaire. Et c'est vrai que tous les groupes n'en font pas, mais un certain nombre de groupes que moi j'ai vu fonctionner peuvent légitimement dire on fait de l'éducation populaire. Mais après tout, qu'est-ce que ça importe d'avoir le label? Pas grand-chose. Parce que plus vite on a le label, plus on s'installe dans le label, et plus on perd en fait ce qui a permis de l'obtenir. Donc en fait, si vous voulez, et puis je m'arrêterai peut-être là tout de suite, on a, à propos de M. Jourdain, l'éducation populaire et quelques pratiques, un champ relativement aisé, pourvu qu'on pose bien les choses au départ, d'identification et de poursuite de développement de ce qui est la nature pédagogique, je veux dire, éducative de ce qu'on appelle éducation populaire.
Donc, on a prévu qu'on allait réagir l'un à l'autre. Hein? Voilà. Alors, j'ai noté ce que tu as dit. Non, mais quand même, on est assez d'accord. C'est déjà ça. Néanmoins, peut-être tu as une vision. Moi, je vais peut-être jouer un petit peu je ne vais pas noircir ce que tu as dit, mais je trouve que tu es un petit peu optimiste par rapport à ce aujourd'hui, ce d'hier, qui se revendique l'éducation populaire. Je ne suis pas sûre qu'on arrive forcément toujours à ce que tu dis. Je reprends ce que tu as dit. Tu dis, la finalité, c'est la transformation sociale. Il y en a ici qui savent qu'on a réfléchi dans un groupe de travail, les deux dernières années, pour ne pas nommer, on verra tout à l'heure, c'est une coordination des associations de jeunesse et d'éducation populaire qui ont le label, hein, c'est ça, le CNAJEP. Le CNAJEP, c'est 75 associations nationales reconnues d'éducation populaire. Et on a essayé de voir dans toutes ces associations qui constituent cette coordination, si, oui ou non, elles militaient pour la transformation sociale. Tout le monde n'a pas voulu le dire, déjà, en disant de quoi vous vous mêlez. Mais, bon, on a fini par trouver des moyens de le savoir, en discuter, de regarder les statuts, les archives, avoir des questions un peu qui permettaient de scinder un peu les gens, les militants. Et on s'est rendu compte qu'on ne peut pas le compter exactement, parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais à peine la moitié, et peut-être pas la moitié, des associations partenaires du CNAJEP disent oui, on milite pour la transformation sociale. Beaucoup d'autres disent, nous on fait de l'éducation populaire, mais on ne fait pas de politique. Donc, puisqu'on ne fait pas de politique, la transformation sociale, c'est politique. Parce que transformation, ça veut dire changer une situation, partir d'une situation, arriver à une autre. Il dit ça, c'est pas notre domaine. Nous, on est en amont du politique. Alors, je pense qu'on comprend une transformation sociale, c'est pour ça que je partage ce mot avec toi. Il ressort beaucoup en ce moment dans les. Parce qu'il y a un regain, hein, on est un regain des débats sur l'éducation populaire. On est les témoins ici de ça. Mais on voit bien une transformation sociale, c'est un indicateur qui permet de trier un peu. Hein, les collectifs, les associations qui vont soit s'en revendiquer très clairement, soit dire, ah non, nous, ça, pour ça, c'est autre chose, c'est pas notre domaine, nous, on est ailleurs, quoi. Ailleurs et autrement. Hein. Donc, c'est, voilà. Ça existe. Moi, j'en connais des associations comme ça. C'est pas un rêve. Hein. Bon. Après, tu dis, alors c'est ma deuxième façon de te répondre, tu dis, dans l'éducation populaire, il y a éducation. Je partage ton idée. Mais tu n'as pas dit qu'il y a aussi populaire. Mais ça, c'est une autre paire de manches. Parce que, déjà, éducation, c'est pas si simple que ça à définir. Enfin, on le sent quand même un peu. Je veux dire, au-delà même des choses ministérielles, hein, éducation, c'est large, mais enfin, on arriverait peut-être à se mettre d'accord là-dessus. Mais populaire, quelque part, ça veut dire
l'idée d'un public, mais d'un public responsable, parce qu'il ne s'agit pas de recevoir des choses, il s'agit de faire des choses, hein, dans un collectif, ensemble. Mais je pense que vous l'avez sûrement fait, sinon je vous le conseille, ouvrez un dictionnaire, plusieurs dictionnaires d'ailleurs, parce que vous n'aurez pas les mêmes définitions, sur le terme populaire. Il n'y a pas plus ambigu, en termes du français, que ce terme-là. Hein, on peut le prendre ensemble. Quelqu'un qui est populaire. Dans un groupe, on dit, ben celui-là, il est populaire. Ça veut dire quelqu'un qui se fait remarquer dans le groupe, qui a une réputation, quelque chose comme ça. La chanson populaire, encore autre chose. Hein? Les classes populaires. Ah, pas besoin de vous dire que ça, c'est une philosophie entière, hein? des bouquins entiers. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que les couches populaires? Compliqué aussi. En tout cas, il y a bien quand même une idée que c'est une éducation qui est particulière. Hein? À partir du moment où on la qualifie de populaire. Et je crois qu'un des enjeux, d'ailleurs, qui entretient des débats passionnés, toujours, ça c'est ça qui caractérise l'éducation populaire, c'est peut-être la troisième chose que je voulais dire, c'est que, effectivement, moi je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer de la définir, et on sait d'avance que c'est indéfinissable. Et je dirais même, ce qui caractérise l'éducation populaire, c'est qu'on n'arrive jamais à se mettre d'accord pour la définir. Mais ça, ça nous fait carburer l'esprit. Et à partir de là, on crée tu l'as un petit peu esquissé, une espèce, je dirais, quasiment de débat public. Hein, on met les choses sur la place publique, on essaie entre nous de s'expliciter là-dessus, et pendant qu'on s'explicite les uns les autres, on fait l'éducation populaire. Parce que je crois que l'éducation populaire, c'est aussi une pratique. Ce sont des pratiques partagées. Moi, c'est un peu comme ça que je définirais. Hein. Des pratiques partagées, j'oserais même dire... conscientiser, ça, ce mot, moi, me plaît beaucoup, parce qu'effectivement, si on fait d'éducation populaire sans le savoir, je pense pas qu'on en fait pour des yeux extérieurs, mais on n'en fait pas pour nous-mêmes. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait vraiment cette conscientisation, effectivement. Mais je dirais un humanisme pédagogique. Alors, le mot pédagogique, tu ne l'as pas prononcé, il est peut-être chargé un peu d'autre chose. Hein. Mais enfin, bon, ce serait une façon de le dire. En tout cas, moi, mon éternelle question, mais j'y participe, puisque je suis là ce soir et je participe souvent à des débats de cet ordre, je dirais que je me demande toujours pourquoi on veut à tout prix définir l'éducation populaire, alors qu'on passe un temps fou à essayer de le faire, et on sait qu'on ne va pas y arriver, mais ça continue à nous intéresser. Donc là, vous voyez, il y a une espèce de tension, là, qui, quand même, nous alimente, je pense. Hein? Voilà. Voilà, pour l'instant, comme je dis que je réagissais, je te laisse continuer ton chemin, mais voilà, j'avais envie de dire ça.
Réagir à ta réaction, ça permettra d'avancer, à mon sens. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on s'arrêtera.
Voilà, oui.
À votre tour, n'hésitiez pas à nous remettre en place comme il se doit, d'une façon sévère. Voilà. Sur transformation sociale, c'est difficile à dire parce que c'est de la politique et l'éducation populaire serait en amont de la politique. Je dirais deux choses. J'ai été animateur avant d'être conseiller d'éducation populaire et de jeunesse au ministère de même nom, et j'étais directeur de maison de jeunes. Et je me suis aperçu d'une chose, c'est que s'il y a bien quelqu'un qui est au cœur du débat politique local, lorsqu'il a une pratique concrète d'éducation populaire dans la cité, c'est l'animateur. Il est cette personne qui va mettre en place des activités, mettre en place des projets, faire entrer en dynamique des groupes, et forcément, en termes collectifs, cette existence-là va interroger les uns et les autres dans la cité, toujours. J'ai jamais vu d'exemple dans ma petite carrière, 30 ans quand même, j'ai jamais vu l'inverse. Et j'ai vu des animateurs qui ont chèrement payé le fait de ne pas opter pour un camp politique. Votre serviteur en est un. Cher payé, licenciement, gros truc. C'est-à-dire qu'on a vu des maisons des jeunes et de la culture rasées au bulldozer. Viry-Châtillon. On a vu d'autres choses de cette nature. J'étais jeune fonctionnaire au ministère de la Jeunesse et des Sports, dans les Hauts-de-Seine, où j'ai assisté au dernier conseil d'administration de la Maison des Jeunes et de la Culture de Levallois. La municipalité venait de changer et le président avait fait cette énorme erreur de prendre position pour un des candidats. Ce n'est pas ce candidat qui a été élu, dans les 15 jours qui suivaient, il n'y avait plus d'MJC. Donc, ça ne sert à rien de dire, moi là, je ne me mêle pas de politique, c'est pas vrai. Ça, que vous le vouliez ou non, l'animateur est placé dans une situation où il est au, en quelque sorte au confluent des différents groupes, des différentes vies, vie sociale de la cité, c'est-à-dire de la politique, dans le bon comme dans le mauvais sens du terme, peu importe. Donc, il n'y a qu'une seule possibilité qui a fait des grands débats à une époque, mais ça j'anticipe peut-être sur une prochaine séance, on dirait juste un mot, un grand débat sur l'engagement. L'engagement citoyen, pas l'engagement partisan. Hein. L'engagement citoyen. Est-ce que je reste sur une prudente réserve en proposant des activités, là, ou bien est-ce que par les activités que je propose, je m'inscris dans une perspective qui va faire bouger les uns et les autres, etc.
Voilà, bonne soirée.
Et ce grand débat, ça a été celui à une époque au sein du CNAJEP, il y a une quinzaine d'années, sur la notion de laïcité. Je reste prudent, je ne me mêle de rien, je suis neutre. La laïcité étant définie comme une espèce d'espace de neutralité, ou bien parce que je dois être celui qui doit permettre toutes les expressions, alors je ne suis pas neutre et je m'engage. Mais je provoque le débat. La différence, elle est dans la conscience de l'animateur. C'est pour ça que j'anticipe un peu, parce que c'est l'aspect professionnel de l'animateur, c'est la limite qu'il se met entre l'engagement citoyen et l'engagement personnel. Et ça, quand on n'a pas bien conscience de l'endroit où se situe cette frontière, c'est dramatique, parce qu'on va avoir beaucoup d'ennuis. Donc ça, c'est... Bon. Que des associations, notamment dans le cadre de cette coordination nationale qu'est le CNAJEP, coordination d'associations dites d'éducation populaire, CNAJEP, hein,
JEP avec le J.
JEP, le Jeunesse Éducation Populaire au bout, Coordination Nationale des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire, s'interroger sur le fait de savoir si toutes se revendiquent de l'éduc-pop, oui, parce qu'elles ont l'agrément, si toutes s'inspirent dans la pratique quotidienne, ça, vous avez raison de vous interroger, parce que je suis de moins en moins sûr, personnellement, pour en avoir rencontré un certain nombre, que le label soit autre chose qu'un label, mais plus du tout la marque de la façon dont on mène les activités. C'est vrai que j'ai parlé d'éducation, et en parlant d'éducation, je n'ai pas parlé de pédagogie. La pédagogie, c'est la façon d'être de l'animateur. C'est encore un autre aspect qu'on peut voir plus tard. L'éducatif, c'est la perspective, c'est le projet, etc. La pédagogie, c'est comment on met en œuvre le projet éducatif, comment on va faire, quels outils on va utiliser. Populaire. Il y a une définition du mot populaire que tu n'as pas donnée et qui est la plus basique en quelque sorte. Hein. C'est l'éducation populaire, ce serait l'éducation du peuple par le peuple. Elle n'est pas si sotte que ça, cette définition, même si elle est hyper facile. Elle n'est pas si sotte parce que ça veut dire que les pédagogues, pour le coup, ne sont pas extérieurs à soi. C'est-à-dire que ça serait l'éducation populaire, cette chose, ce concept, qui ferait qu'on a en soi ou avec ses proches les éléments de fond, de base, qui permettent d'apprendre. Ou qui permettent d'apprendre à apprendre, qui permettent de se situer par rapport à une découverte de l'autre, de ce qu'on n'a pas, qui pour l'instant nous est éloigné, etc. etc. Ça, c'est pas rien comme élément, parce que dans la construction d'un projet, je disais tout à l'heure à propos de l'escalade, là, on va se retrouver l'un avec l'autre, les uns avec les autres, pour faire quelque chose ensemble. Il faut bien que le groupe se structure, mais qu'il vive, il faut bien qu'il prenne des décisions. Mais tout ça, c'est de la nature dont je parlais tout à l'heure. Et ça ressemble un petit peu à du peuple par le peuple. Mais peut-être pour conclure cette première phase, je crois que les conditions du débat public, c'est aussi à la fois, c'est pas la finalité, mais c'est un des objectifs. Ça peut être un des objectifs, mais c'est aussi un moyen. C'est-à-dire que plus on se confronte, plus l'individu a la capacité de découvrir sa différence avec l'autre, d'identifier ce qui est positif, ce qui ne l'est pas pour lui comme pour l'autre, etc. C'est-à-dire, en gros, tu parlais d'humanisme tout à l'heure, je pense que l'éducation populaire est un humanisme, quand elle est située telle qu'elle, c'est-à-dire l'éducation du peuple par le peuple. C'est-à-dire, en gros, la philosophie qu'il y a derrière l'éducation populaire, c'est l'autonomie des individus et des groupes. Je suis autonome, qu'est-ce que ça veut dire? Je braque tout le monde, je suis tout seul? Non. je suis moi par rapport aux autres, moi en société en gros. C'est-à-dire que je ne m'isole pas, mais je sais que le commerce de l'autre est toujours positif, parce que je l'ai découvert, ce qui n'est pas forcément évident, à l'heure d'Internet et du temps, je ne vais pas poser de questions, hein, mais enfin, du temps qu'on passe, que vous passez, parce que moi évidemment ce n'est pas le cas, devant nos écrans, on va vite s'apercevoir que le contact avec l'autre, le contact direct avec l'autre, il commence un petit peu à être remplacé par une technologie. C'est un véritable sujet de réflexion pour nous. Qu'est-ce que c'est? Comment mesure-t-on les conséquences de ce formidable moyen de communication inter-individuelle qu'est Internet? Par rapport à l'éducation populaire, Internet et éducation populaire, c'est un vrai champ d'investigation intéressant. Je ne suis pas prêt à mettre un grand trait, une grande croix sur Internet. Sur un certain nombre de pratiques, oui. Mais sur un certain nombre d'autres qui nous restent à identifier, qui nous restent à pratiquer. Et d'ailleurs, si on le faisait, on ferait de l'éducation populaire. Car on se mettrait d'accord sur un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de construire, d'aller plus loin. Chacun et ensemble. Donc, la condition du débat public, c'est-à-dire la capacité de se situer, de prendre un sujet qui nous intéresse, de l'exprimer, de l'exploiter jusqu'au bout, et donc peut-être d'arriver à des propositions, ça, c'est de l'éducation populaire. Et c'est vrai que un certain nombre d'associations qui s'en revendiquent et qui la pratiquent vraiment sont des associations qui survivent aux plus grandes difficultés. Hein, la maison des jeunes de Courbevoie est une maison qui a vécu 25 ans dans l'opposition à son maire, au maire de Courbevoie. 25 ans. Il fallait vraiment qu'il y ait, alors sans subvention et du tout, c'est-à-dire que 25 ans, ils ont réussi à partir d'un projet qu'ils ont su renouveler, développer, la structure de l'association, le noyau dur, a réussi à entraîner suffisamment d'énergie entre eux pour se souder et autour d'eux pour exister. Et ça, si ce n'est pas la preuve que les conditions du débat public et de l'extériorisation de leur propre projet étaient viables, hein, ben ça ne veut rien dire. Hein, ça n'a plus de sens. Donc, on est bien dans la construction du débat public. Alors, peut-être aborder un dernier point, puis on pourrait, Françoise est de nouveau réagi et vous laisser la parole. C'est le mouvement associatif aujourd'hui. Eh bien, dans l'adversité, parce que c'est difficile de parler autrement, lorsque des associations de quartier se sont vues sucrer toutes leurs subventions, lorsque l'État supprime 45% des subventions aux associations, au ministère, mais que d'autres suivent le même exemple, beaucoup ont disparu. Un certain nombre subsistent. Parce qu'elles se battent, parce qu'elles continuent de trouver les ressources, pas les financières aussi, mais aussi les ressources morales, mentales, pour poursuivre. Et aussi parce que l'objet sur lequel elles travaillent, les associations de quartier, les associations du cadre de vie, etc., ont eu cette capacité de nouer ce lien en question. Alors, on se retrouve avec un paradoxe. C'est plus on a tapé sur les associations, plus un certain nombre ont réussi à se réaffirmer, parce qu'il était vital. Celles qui n'avaient pas d'existence associative, qui n'avaient pas ce qui fait que l'association existe, hein, l'affectio societatis, comme on dit en droit. Quand il n'y a plus ça, ça disparaît dans l'adversité. Par contre, si ça existe toujours, eh bien ça trouve des moyens, c'est un peu comme la paramécie, hein, ça fait le tour de la difficulté, et puis on arrive, en réépousant un autre terrain, à continuer de vivre. Eh bien, celles-ci ont des chances, à mon sens, de s'affirmer encore plus si le robinet s'ouvre, et aussi parce que l'une des grosses conditions, j'arrêterai là-dessus, mais ça me semble essentiel, l'une des grosses conditions que l'État avait mis pour aider les associations, c'était pas de les aider sur leur structure, leur fonctionnement, leur nécessité d'agir toujours, mais c'était de leur dire, si vous faites quelque chose de plus, alors je vous subventionne, ce qui est une aberration. C'est-à-dire que vous êtes dans la merde, je ne veux pas le savoir. Par contre, si vous faites autre chose, eh ben, je peux vous aider. Mais attendez, j'arrive déjà pas à faire ce que je fais. Ah ben, coupez. Vous savez comment ça se passe. Donc ça, c'est une méconnaissance totale, ou alors, c'est la volonté de dire, ou bien vous faites ce que je souhaite que vous fassiez, ou bien salut terminé. Eh bien, ça nous interroge, ça pose une véritable question. Est-ce que une telle attitude est légitime par rapport à une volonté citoyenne? À titre personnel, ma réponse est claire. Pour moi, je ne vous la fais pas partager, j'exprime simplement, je mets simplement la question sur la table pour dire, bon, sur une situation comme celle-là, on voit bien que projet, structure publique, adhérent, qu'il y a là un espèce de triangle dans lequel la règle, enfin l'issue n'est pas toujours fatale. Et quand on sait regrouper ses propres forces, on peut imposer. C'est difficile.
Bon, je réponds encore et après, ça va, je vais faire court, mais c'est tant qu'on l'a dans la, dans la tête. Je vais commencer par la fin de toi. Tu as parlé des associations et puis je vais remonter après. Association. Moi, je suis très attachée, en ce moment encore plus, je crois, parce que j'ai l'impression qu'on a, depuis même quelques mois, je dirais, de mettre tout dans tout et réciproquement, quoi. Hein. Alors, on a l'impression qu'on est tous d'accord, le développement durable, l'éducation populaire, la vie associative. Et là, moi, je me bats contre ça. Alors, vous savez, vous vous rappelez quand on a fêté, vous rappelez, c'était Jean-Michel Bellorget qui avait, en 2001, hein, été chargé d'une mission de fêter le centenaire de la loi 1901. Bon, moi, c'est Jean-Michel Bellorget, j'aime bien, je respecte beaucoup. J'ai d'ailleurs participé à des choses qu'il a organisées. Mais je trouve qu'il a mis beaucoup de troubles et même, je dirais, beaucoup d'une fausse idéologie dans nos têtes. Hein. Comme si 1901, c'était une conquête du peuple, alors que les associations, ça existe depuis le début du 19e siècle. Donc, bon, 1901 est la date où ça sort, mais il s'est passé bien des choses avant. C'est pas sorti facilement. Beaucoup de ce qu'on appelait à l'époque des groupes d'initiative sociale, hein, on parlait comme ça, se sont plaints. Parce qu'ils trouvaient que la loi 1901 était contraignante et que l'État venait se mêler de choses qui ne le regardaient pas. Hein, donc, ce n'était pas si simple, hein, l'association 1901. Donc, il y avait comme ce qu'on appelle une sorte d'anachronisme. C'est-à-dire qu'on a retranscrit, lors de la commémoration en 2001, l'idée très fortement positive de la vie associative dès le début 1901. Alors que je pense que c'était un long chemin. Hein, et que la place des associations dans notre société française a beaucoup varié depuis un siècle. Voilà, première chose. Vous vous rappelez qu'à cette occasion, 2001, on essaie de compter les associations. On n'y a pas réussi. Et on n'y réussit toujours pas. C'est quand même un problème. Hein. On parle du monde associatif, mais on ne sait pas très bien de quoi on parle. On sait que ça augmente terriblement, alors que ça n'a pas toujours augmenté. On a une date, moi j'ai un petit peu travaillé là-dessus, 1977. Où là, il y a un boom associatif, très très évident. Rappelez-vous, 77, c'était juste après les élections municipales, où justement, d'ailleurs, il commençait à y avoir une vie locale, municipale, beaucoup plus forte en termes même politiques, hein, sur toute la France. Et là, c'est vrai que, là, on peut quand même mesurer un peu, beaucoup d'associations, à ce moment-là, se créent et prennent de la valeur, beaucoup plus qu'avant dans notre société, une valeur quasiment militante. Hein. Ça, c'est juste. Mais avant, pas forcément. Avant, on avait beaucoup ce qu'on appelait des groupements de faits, où on ne pensait pas très nécessaire de se déclarer en association 1901. Ils ne revendiquaient pas tellement les assemblées générales, les conseils d'administration, tout ça. C'est un petit peu plus tard, hein, que ça a pris cette dimension. Alors, quand on essaie de compter quand même, on arrive à, je crois qu'en 2001, c'était 830 000 associations. C'est pas rien, hein. Et aujourd'hui, encore plus, mais comme on sait pas, on n'a même pas fait un observatoire qui nous permettrait, je ne sais pas, moi, dans les préfectures, on pourrait compter les associations qui se déclarent. Ça n'a même pas servi à ça, 2001. Non, on ne sait donc toujours pas combien il y en a, parce que, attendez, il y a des associations qui sont déclarées depuis des décennies et qui n'existent plus depuis longtemps. C'est une espèce de carapace vide, hein, des coquilles vides. Et puis, il y en a qui ne sont pas déclarées, mais qui fonctionnent de manière associative, très compliquée. Hein. Donc, allez, on va dire comme ça, 900 000 associations. Je pense que sur les 900 000 associations d'aujourd'hui, elles sont toutes très différentes. Alors, sur des champs différents, mais aussi sur des façons démocratiques de fonctionner différentes. Une association n'est pas forcément démocratique. Je dirais même plus, la loi 1901 est très peu démocratique. Ça dépend, on peut en discuter, hein. Je mets ça au débat tout à l'heure. Hein. Bon, et donc, par rapport à la jolie définition qu'on donne de l'éducation populaire, à notre militantisme d'éducation populaire, attention, toutes les associations ne sont pas forcément d'éducation populaire. Ce n'est pas parce qu'on fait une association qu'on fait de l'éducation populaire. Et réciproquement, on peut tout à fait se revendiquer de la conscience de faire de l'éducation populaire sans pour autant avoir une vie associative. On peut vivre en collectif, on peut partager avec d'autres, mais là, c'est pas obligé de passer par le statut 1901. Voilà. Et je veux toujours faire la différence entre ça, parce que je trouve qu'on se trompe beaucoup. Et ben, je peux en citer, parce qu'on va pas se faire du mal, mais on pourrait citer des associations de riverains, par exemple. Tiens, moi, je participe à l'Observatoire de la démocratie locale à Paris, comme expert, là, ça fait 4 ans que je suis ça. Les associations de riverains, je suis pas sûre qu'elles soient toujours très citoyennes, hein. Parce que, comme on dit, on défend son bout de jardin, quoi, hein. On défend le parc-maître qui est devant sa porte. C'est pas très collectif, hein. Voilà. Il y en a beaucoup des associations comme ça. Hein, donc attention à ne pas mélanger les choses, parce qu'à force de mélanger, on ne va plus s'y retrouver, on va perdre la substance qui est celle qui nous intéresse. Hein, voilà. Alors ça, c'est la première remarque. Il y a un moment, tu as parlé tu as repris sur pédagogie, tu as parlé d'outils. Moi, je voudrais aller dans ton sens, mais plus qu'outils, qui est un mot qui me dérange. Alors outils, il y a un côté culture ouvrière sympathique, mais je trouve qu'outils, on dit, oh, on va transformer l'outil, on va faire des outils, comme s'il suffisait de faire des outils pour faire marcher les trucs. Non, je préférais déjà méthode, hein, et pratique. Pratique partagée, c'est-à-dire on réfléchit à des pratiques, et peut-être on peut oser, on met des méthodes en place. Des méthodes, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, pour faire fonctionner des collectifs dans des objectifs. Il faut dire aussi le mot objectif. Mais le mot outil, moi je lutte un peu contre ça, parce que côté un petit peu méprisant, là, qui me déplaît un peu. Mais il est un petit peu à tort et à travers. Bon, je ne sais pas par rapport même au mot que tu as dit, mais parce que je sais que ça s'utilise beaucoup, le mot outil. Attention à peut-être cet usage-là. Hein? Juste pour comprendre. Oui, vas-y.
On ne parle pas des mêmes choses. Le processus, etc., on a des méthodes de processus, oui, pour faire avancer.
Oui.
Et par rapport à ce processus et méthodes, on a besoin de... parce que la cité internet et tout ça.
Oui, mais
pour moi, c'est pas une méthode, c'est un outil.
Ça dépend. Ça peut peut-être être une méthode aussi, j'en sais rien, mais je voudrais montrer que l'outil, il suffit pas de faire ça, quoi. Hein, voilà. Hein, c'est juste ça, hein, mais parce que je trouve que quelquefois, on abuse un petit peu de. Ce serait la solution, l'outil, là, le bon outil. Bon, voilà. Hein? Oui, un petit côté comme ça, oui, c'est vrai, oui. Hein, voilà. Alors, je reprends un tout petit peu encore sur populaire. Bon, bien sûr, le peuple par le peuple. Il y a une définition dans l'éducation populaire qu'on n'a pas dite, qui circule beaucoup depuis plus d'un siècle, et qui est de dire, et tu l'as quasiment énoncé tout à l'heure, ce qu'on a appris, on peut l'apprendre aux autres. Hein, ça, c'est une valeur assez constante dans l'éducation populaire. Mais ça interroge beaucoup, parce que ça veut dire, est-ce qu'il y a donc un tel partage de la connaissance? Est-ce que tout ce qu'on a appris, on est capable de l'apprendre aux autres? C'est une espèce d'utopie égalitaire. Bon, je joue un peu l'avocat du diable, hein, mais quand même, c'est intéressant de se poser ça. Il y a des gens qui savent des choses, d'autres qui savent d'autres choses. Mais on ne devient pas forcément l'éducateur de ce qu'on a appris. Ce n'est pas si simple. On peut y tendre. Mais il y a une espèce de limpidité, comme ça, presque de simplisme, c'est un petit peu dur ce mot, mais enfin... Et qui dirait, ben oui, forcément, on a appris, on est dans une chouette bande de copains, là, on va l'apprendre aux autres. Attention, je veux dire. Hein, chacun a ses secteurs, ses domaines, ses compétences. Par contre, on peut associer nos compétences, je pense. Hein, voilà. Moi, je lancerai un mot, alors dont je vous reparlerai sans doute la prochaine fois, parce que la prochaine fois, on fera peut-être un parcours un petit peu plus historique, hein, on s'y prendra un petit peu différemment. Il y avait un très joli mot... qui était dit au moment où il y a les universités populaires, 1890-1900, vous voyez, donc plus de 100 ans. Et on disait, j'aime beaucoup ce mot-là, une coopérative d'égo volontaire. Hein, donc, égo, on ne l'a pas dit là, tout à l'heure, hein, il y a égalité, hein, nous sommes des égaux volontaires, tout de même, volontaires. Il n'y a pas égo qui veut. Et donc, il y a un mot derrière ça, mais ça, je le développerai aussi la prochaine fois, qui, au fur et à mesure des années, et beaucoup finalement après la Deuxième Guerre, au moment où l'éducation populaire prend beaucoup de force, le mot élite, que tu n'as pas prononcé, le mot élite, et pourtant, peut-être ça va vous surprendre aujourd'hui, mais il y a une revendication que l'éducation populaire aide à former des élites. Alors on disait, non pas des élites de naissance, là on lutte contre ça, mais on disait ça beaucoup, par exemple, tiens, dans le texte du Conseil national de la résistance. Donc, vous voyez, c'est un texte quand même sur lequel on pourrait tous être d'accord, quand même, c'est un texte fort. Eh bien, on parle de ça et on dit qu'on parle d'élite de mérite. Et les luttes de mérite, c'est ceux qui s'auto-forment comme ça les uns les autres. Hein, donc voilà. Et ce mot élite, bon, il faut le regarder en face, je dirais. Hein, mais l'élite, c'est toujours laisser aussi des gens sur le bord du chemin. Hein, parce que l'ouvrier qui allait prendre des cours à l'université populaire le soir, après ses 8 heures ou 10 heures de boulot, vous vous rendez compte, quel courage! Parce que c'est pas rigolo ce qu'il faisait. Hein. Il faisait du calcul, il n'avait pas été beaucoup à l'école souvent, donc il venait compléter sa formation scolaire, de l'orthographe, du calcul, de la mécanique, des dessins, du dessin industriel, que sais-je. Et après, ben, il retournait au boulot le lendemain matin. Donc c'était des gens, évidemment, qui avaient une volonté de s'en sortir. Et à l'époque, il y avait de l'ascension sociale. Donc un ouvrier, même s'il n'avait pas un diplôme, qui pouvait dire qu'il avait suivi des cours en général, eh bien, il passait responsable dans son entreprise, pas tout de suite. Au début, ben, il n'était pas encore cadre, mais enfin, il montait un petit peu dans la hiérarchie de l'usine. Hein, il devenait contremaître. Mais quand il devenait contremaître, il continuait à fréquenter l'université populaire. Mais le problème, c'est que l'université populaire, au départ, ça s'était créé pour faire que les gens de la classe populaire montent dans la société. Une espèce de progrès social, hein, ce qu'on appelait la promotion collective. Mais si l'ouvrier devient contremaître, on se posait la question, en 1900, on a fait un questionnaire, on dit, mais est-ce qu'il n'est pas en train de perdre le contact avec ses compagnons de base? Est-ce que l'éducation populaire n'a pas eu tendance à toujours former une petite élite, qui est devenue un peu classe moyenne, parce qu'elle est montée dans l'ascension sociale, mais qui a eu tendance à laisser sur le bord du chemin ceux qui ne sont pas encore dans cette élite et qui sont restés dans les classes qu'on appelle aujourd'hui non seulement populaire, mais en difficulté sociale, etc. Donc, est-ce que l'éducation populaire n'oublie pas un peu de faire du social? Est-ce qu'on n'est pas un petit peu trop dans l'entre-soi en termes de classe sociale? Hein? Voilà. Et puis, et dernière chose, je m'arrêterai là. Tu as évoqué tout à l'heure le label. On n'a pas prononcé le mot État. Tu as suggéré, puisque tu as parlé de ton ministère, le ministère Jeunesse et Sport, qui est effectivement celui qui délivre le label, mais pas seulement éducation populaire, jeunesse, éducation populaire. Ça, on pourra peut-être en rediscuter. Je voulais juste donner deux petites anecdotes historiques, dont je reparlerai aussi le prochain coup. Je vais me situer juste à la libération, en 1944. C'est là qu'on va commencer à appliquer ce qu'on va appeler l'agrément, hein, jeunesse, éducation populaire, qui en fait est situé dans un... issu d'un texte de 1942-43, et on arrive à Libération, on dit, on va appliquer ce texte-là. En fait, c'est donc, s'il y a label, c'est qu'il y a des sous. Je n'ai pas parlé de sous, hein, tu as été très soft là-dessus. Mais ceux qui ont besoin d'un label, c'est ceux qui demandent des sous. Alors d'abord, toutes les associations ne demandent pas des sous. Mais quand on demande des sous à Jeunesse et Sport, il faut avoir l'agrément, obligatoire. Et on a inventé ça en 1944. Alors pour une bonne raison en 1944, je ne vais pas vous tracez tout ça, mais vous en doutez un peu. Il y avait beaucoup d'associations de toutes sortes, y compris beaucoup d'associations pétainistes. Et il fallait un peu faire le ménage. Donc le premier rôle de l'agrément, ça a été d'enlever les associations pétainistes, qui bien sûr n'ont pas répondu au label, et de créer un label un peu propre qui permettrait de repartir dans des bonnes bases pour la reconstruction, hein, après 1944. Voilà. Donc ce label a commencé à être appliqué. Hein, avec, à l'époque, c'était l'éducation, il n'y avait pas encore le ministère de Jeunesse et Sport, c'était l'éducation nationale. Hein, avec, je cite le nom d'un monsieur important, Jean Guéhenot, hein, qui était le premier directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire, mais qui était un directeur au sein du ministère de l'éducation nationale. Voilà. Alors, on délivre des labels, on fait une commission des agréments. Bien. Et là, on dit, et là, ça va marcher pendant 3 ans, que plein d'associations vont pouvoir avoir ce label, et notamment... Un petit exemple, les jeunesses socialistes, donc les jeunesses politiques, les jeunesses communistes, les jeunesses radicales. On dit oui, ils font des activités comme les autres, tout à fait bonnes pour avoir vraiment, on peut revendiquer pour ce label, et donc on donne très tranquillement le label à ces jeunesses-là. Hein, jeunesse, ça veut dire groupement de jeunesse, hein, d'accord. Et puis on arrive en 1947. Et là, je vous rappelle, je ne sais pas si vous avez des petits souvenirs d'histoire, c'est quand il y a une très jolie période, un petit peu extraordinaire, on en parle pas assez, entre 1944 et 1947, le tripartisme. Hein, c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte qu'on a 3 partis politiques qui gouvernent, qui n'ont plus jamais gouverné ensemble. Hein, les socialistes, on disait la SFIO à l'époque, le Parti communiste français, c'est comme ça qu'on l'appelait, et le MRP. Hein, le MRP, Mouvement de Républicain de Progrès, ça c'était, alors on va dire, les catholiques sociaux du centre. Voilà.
Hein? Catholicisme social.
Catholicisme social. Bien, ces trois mouvements gouvernent ensemble, et il y a vraiment là des moments formidables. On réfléchit à plein de trucs, on reconstruit vraiment, on réinvente une société. C'est vraiment très intéressant à étudier de près. 47, fin du tripartisme, début de la guerre froide. Et là, il y a une partition qui se crée d'abord au niveau international, mais qui arrive en France, où on dit désormais, il y aura les communistes ou ceux qui acceptent de les fréquenter un petit peu, et puis tous les autres. Et du coup, l'État, le même ministère qui avait donné le label, l'éducation nationale, décide que désormais, non, on ne peut pas être dans une jeunesse politique et faire de l'éducation populaire. Donc on enlève l'agrément aux jeunesses politiques. Et ces jeunesses n'ont plus jamais retrouvé l'agrément. Alors elles ont bricolé autrement. On a bricolé Tourisme et Travail, on a bricolé Léo Lagrange, qui était, en fait, c'est des jeunesses socialistes, mais quand ça s'est appelé Léo Lagrange, ça a pu avoir le label, etc. Il y a pas mal d'exemples comme ça. Voilà. Hein? Et encore, autre petit exemple dans une autre période, Maurice Herzog, on t'a parlé des alpinistes tout à l'heure, hein? Maurice Herzog, il était alpiniste, il a été ministre. Alors, pour le coup, de la jeunesse et sport, enfin, secrétaire d'État au départ, et puis après... C'est après, en fait. Hein, c'est quand il est quitté qu'on a fait vraiment un vrai ministère. Bon. Et là, il a eu quand même, c'était sous De Gaulle, des budgets assez conséquents. Il est resté 7 ans au ministère. Hein, et les budgets ont été multipliés par 4 en 7 ans, ce qui est quand même pas mal. Toi qui connais bien un problème de subvention et tout, on a rarement vu ça. Hein. Et même Maurice Herzog, en pleine guerre d'Algérie, hein, où il était en fonction, il y avait un mouvement qui va fêter ses 50 ans, d'ailleurs, samedi, que moi, j'ai un petit peu fréquenté. Il y a un mouvement qui était créé à Nice, qui s'appelle Jeunesse Camping, issu plutôt de la JOC, avec des jeunes à Nice très militants, qui avaient une... Claire Vallon, c'est une maison genre auberge, un petit peu auberge jeunesse, parce qu'on pourrait dire, hein, qui a beaucoup travaillé avec les gens militants du FLN, qui venaient d'Algérie, donc il se passait là, plein de choses, voilà. Donc un militantisme politique affirmé, mais qui avait leur agrément. Et bien qu'est-ce qu'il a fait Maurice Herzog? Il a dit, vous faites trop de politique, et il a enlevé l'agrément. Ils l'ont retrouvé que 5 ou 6 ans après. C'est pas forcément à cause d'Herzog, parce que Herzog n'était pas le plus radical là-dessus, mais c'était l'État. Voilà. Je voulais juste donner comme ça des petites anecdotes historiques, c'est bien aussi hein, de voir comment ce critère éducation populaire, il s'est appliqué, à mon avis d'ailleurs pas du tout de la même façon, selon les périodes historiques.
Donc, juste pour compléter, c'est l'histoire de label, c'est que par exemple, nous avons le label d'éducation populaire, et il y a 2 ans, il a été fait un sacré ménage du département, je ne sais pas si c'était national ou département
uniquement. Oui, il y a les deux.
Où ils ont remis à plat
toutes
les structures à l'Élysée.
Il y a quelqu'un qui connaît bien.
Et il fallait remplir les dossiers, enfin, rencontrer, rediscuter avec les représentants de la direction de. Par contre, on a des sports pour dire bah oui, bah si on y est, on veut le garder, etc. Donc, c'est repassé en commission et on a eu à nouveau le label, on est repassé à une commission récemment. Voilà. Donc, il y a une. Voilà. C'est tout nouveau pour nous, quoi. Voilà. On a un nouveau label sous
France. Donc, c'est bien. C'est bien. C'est toujours bien d'avoir le label, quand même.
Voilà. Alors, est-ce que vous mettez une date de début à l'éducation populaire?
Ah,
si oui, qu'est-ce qu'il y avait avant?
On ne va pas être d'accord.
On sait d'avance qu'on n'est pas d'accord. Mais on peut...
J'attaque.
Et t'attaques et je réponds.
Pour moi, mais ça sera immédiatement contredit.
Contesté, pas contredit, contesté.
Contesté par mon inestimable collègue, François Stéphane. Je pense que en amont des premières pratiques, il y a quelqu'un qui a un peu théorisé sur la chose et que... et qui est selon moi Condorcet dans son rapport sur l'instruction publique où il a défini le rôle un peu particulier en dehors de la classe des maîtres en définissant que leur responsabilité c'était d'entretenir et de faire en sorte que soient entretenues les connaissances. Il faut se rappeler que à cette époque on a un bouillonnement révolutionnaire et donc la suite qu'il a su, lui, qu'il avait en charge, je veux dire, de faire, il avait trouvé cette nécessité qu'il y avait, finalement, de confier à ceux qui étaient en possession du savoir une responsabilité qui était celle d'entretenir les connaissances. C'est dans le rapport sur l'instruction, c'est dans le rapport général sur l'instruction publique. Ça, c'est... Je ne suis pas historien, c'est un petit peu ce que les gens de mon espèce essaient de définir, sachant que les véritables pratiques viendront après. Alors, avant, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est un petit peu le tonneau des Danaïdes, parce qu'on va s'apercevoir. Si on se reporte sur des pratiques de groupes humains, on va probablement s'apercevoir, d'une certaine façon, que sans forcément le théoriser, il y a des pratiques d'apprentissage mutuel. Il y a des pratiques d'entraide, dont l'objectif, ou dont la résultante, même s'il n'est pas posé comme objectif, c'est effectivement que l'autre sache aussi, en gros, sache faire aussi. Hein. Et ce n'est pas simplement savoir, c'est savoir faire, savoir être. Je répondrai comme ça.
Oui. Bon, ben, effectivement, mais c'est un débat qu'on a lancé déjà depuis quelques temps là-dessus, mais c'est bien, c'est intéressant, parce que là, dans cette question, il y a, donner une chronologie à l'éducation populaire, mais en fait, il y a aussi discuté, c'est quoi l'histoire? Et ça, c'est un débat philosophique auquel je participe comme d'autres. Alors, pourquoi je ne suis pas d'accord? C'est qu'effectivement, dans les histoires classiques d'éducation populaire, et pour ne pas le nommer, mais on peut le nommer, il y en a un qui a écrit assez tôt une histoire qui appartenait à Peuple et Culture, qui s'appelle Benigno Cacérès. Et je dirais que ce livre est toujours en train de régner sur tous les milieux d'éducation populaire, il n'est pas contesté. Il a été réédité plusieurs fois. Alors, je ne conteste pas ce livre, il est sorti à un moment donné. Simplement, c'est une certaine façon de faire de l'histoire. Alors oui, voilà, Condorcet, il a fait un discours. Quand on sait ce qui s'est passé après, on peut dire, oui, alors, c'était bien l'éducation populaire. Mais c'est ce que j'appelle faire l'histoire à l'envers. C'est-à-dire, c'est faire parler des gens d'une chose qui n'existe pas encore, mais qu'on va chercher des sources théoriques sur une pratique, comme tu l'as justement dit, qui s'est installée après. Donc moi, c'est vrai que plusieurs fois, mais j'ai des amis là, avec lesquels j'avais proposé cette vision, et je me suis fait un petit peu contester, parce que les gens à qui je disais ça n'étaient pas trop contents, mais moi, je rejette ça, parce que je dis, si on cherche des gens qui ont fait ce qu'on appelle des discours, au sens pur du terme, je dirais, au sens théorique du terme, c'est-à-dire monter sur une estrade et développer un argument. Si on cherche ça, il n'y a pas de Condorcet, on va en trouver plein d'autres. Peut-être même que dans la démocratie athénienne, on va en trouver aussi. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on réfléchit à l'éducation, etc. Donc, moi je dis, pourquoi Condorcet plus qu'un autre? Condorcet, oui, mais bon. Et moi, c'est vrai que ma façon de faire de l'histoire, vous savez, en histoire, on a des écoles aussi, comme partout, on ne fait pas tous histoire de la même façon. Moi, ma façon, c'est effectivement de travailler sur ce qu'on appelle en histoire, dans notre jargon, des pratiques. Alors, les pratiques, c'est on regarde et on voit est-ce qu'il y a des gens qui font l'éducation populaire et qui disent qu'ils le font. Donc, pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, à partir de quand on peut cerner cette façon d'agir et que ces gens le revendiquent, que ce soit ceux qui le font qui le revendiquent. Alors là, moi, j'ai une date, et bon, j'avais prévu d'en parler la prochaine fois, assez précise, 1890-1900. Dans des textes, je vois des gens qui, alors notamment, c'est vrai, je parlais tout à l'heure, une façon qui est un petit peu d'expliquer ça, c'est ce qu'on va appeler les universités populaires. Mais il n'y a pas que ça, il y a des foyers laïcs, il y a beaucoup, à ce moment-là, d'équipements, surtout dans des villes, dans des quartiers, des bâtiments, où on fait des choses. On fait de la lecture publique, on donne des cours, j'ai dit tout à l'heure, on fait des patrons, c'est-à-dire on prend les enfants, à l'époque c'est le jeudi quand ils ne vont pas à l'école, et puis on leur fait aller en des loisirs, des colos, des jeux, etc. Voilà, il y a une bibliothèque souvent où on peut emprunter un bouquin, ce qui à l'époque est loin d'être courant. Il y a des expositions, etc. Et donc je dirais que là, il y a un ferment, d'ailleurs qui se ressemble un petit peu à ici, d'une certaine façon, comme modèle. Et ça, quand il y a des gens qui disent oui, nous on fait université populaire, et là on voit qu'ils réfléchissent à ce qu'ils vont nommer. Alors, ça s'appelle pas. Il n'y a pas de majuscule à l'époque, on dit, dans la même phrase, on va trouver éducation ouvrière, éducation citoyenne, éducation populaire. Il n'y a pas de distinction. Mais on sent que les gens ont conscience qu'ils font ça et que c'est un peu nouveau et qu'ils ont envie de le faire. Ils se donnent les moyens de le faire. Donc je dirais, voilà, pour répondre à votre question, c'est de là où je pourrais démarrer, moi, plutôt le... Oui. Parce qu'après, cette expérience est restée dans les esprits. On a pu la revendiquer. Voilà. On pourrait élargir, mais disons que c'est, moi, je le situe là. C'est juste après l'affaire Dreyfus, dont on a parlé juste récemment.
Je vais vous donner deux citations, si vous permettez, pour vous répondre. L'une pour moi et l'autre pour Françoise. la première de Condorcet, donc dans le rapport, Condorcet dit « L'instruction nationale permet d'établir entre les citoyens une égalité de fait et de rendre réelle l'égalité politique reconnue par la loi. Chaque dimanche, l'instituteur ouvrira une conférence publique à laquelle assisteront les citoyens de tous âges, en continuant l'instruction tout au long de la vie. » Vieux concept. On empêchera les connaissances acquises dans les écoles de s'effacer promptement de la mémoire. On entretiendra dans les esprits une activité utile. On instruira le peuple des lois nouvelles, des observations d'agriculture, des méthodes économiques qu'il lui importe de ne pas ignorer. On pourra lui montrer enfin l'art de s'instruire par soi-même. Tout ça dans une rubrique qualifiée de rendre la raison populaire. Je vous le donne comme ça. Et alors, 44 Benigno Cáceres, qui disait, qui définissait ainsi l'éducation populaire, lançait l'ensemble des moyens qui permettent de donner à tous les hommes et les femmes l'instruction et la formation nécessaires afin qu'ils deviennent des citoyens aptes à participer activement à la vie du pays. Donc, on ne tranche pas, on vous livre ce sujet de réflexion.
Moi, je réagirais quand même, parce que est-ce que les parents, quand ils éduquent leurs enfants, transmettent le savoir des générations, c'est déjà pas l'éducation populaire. Et deuxièmement, quand à l'âge de pierre, il faut simplement tailler une pierre en un silex, est-ce que ça, c'est déjà pas l'éducation populaire dans le groupe? Est-ce que l'éducation populaire a un âge?
Alors, ce qui est très intéressant, là-dessus je saute sur l'occasion, c'est que dans les universités populaires qu'évoquait tout de suite Françoise, il y a une femme plus connue parce qu'elle a fait dans le monde des arts et des lettres, et puis un homme plus connu parce qu'il a pu réaliser dans le domaine de la pierre, en fait, qui se sont mis ensemble pour faire effectivement les universités populaires. La première, et j'ai oublié le nom, c'était Georges Sand. Et le deuxième, c'est Agricole Perdiguier, compagnon du devoir du Tour de France, c'est ainsi qu'on l'appellerait maintenant, et qui ont ensemble mis à disposition de ces universités populaires et du mouvement des universités populaires leur savoir. L'une, dans un domaine qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'elles se proposaient de faire, et l'autre, parce que précisément, la pratique par un compagnon, la pratique compagnonique d'un certain nombre de métiers, tailleurs de pierre, charpentiers, etc., était telle que ce n'est pas une suite d'actes irresponsables collés les uns aux autres pour faire quelque chose, c'est un cheminement de pensée. Il faut lire le que sais-je sur le compagnonnage, vous allez comprendre, un truc merveilleux qui est que, en fait, c'est quand on dessine, c'est l'esprit qui utilise la main. Bon. Et ça, c'est une image très belle. Pas pour dessiner, pour concevoir l'œuvre que le compagnon se propose d'effectuer.
Je pense que on peut insister sur le fait que l'éducation populaire est très liée à la cité, est très liée à la cohésion sociale, à la vie collective, et qu'elle est en partie prise en charge par l'État, qui veille à ce que ça ne s'écarte pas trop. On peut comprendre les suppressions à certaines époques de telle et telle association parce qu'elle s'écartait trop de la représentation commune de notre société, enfin des valeurs de tel et tel pays. Et donc c'est la différence par rapport à l'instruction qui est une transmission d'ensemble des savoirs. Et l'éducation familiale, qui est aussi la transmission de traditions familiales, de valeurs aussi, mais plus liées tout de même s'il y a aussi des valeurs collectives, plus liées aux valeurs familiales. Et l'État ou les institutions collectives ont quelque chose à voir dans l'éducation populaire pour rendre la personne plutôt citoyenne, quoi, plutôt dans la cité, présente dans la cité.
En vous écoutant, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot cercle. Je veux dire, il y a l'idée de faire un cercle ensemble, donc effectivement on se met à égalité de situation les uns par rapport aux autres. Alors je ne dis pas dans la famille ça n'existe pas,
Mais dans la famille, on est plus dans une idée de génération. Donc, vous voyez, je fais ce geste-là. Et l'idée de cercle, c'est de mettre, a priori, des gens qui, sans doute, ne seraient pas dans ce cercle ensemble, mais parce qu'on milite dans ce qu'on va appeler l'éducation populaire, on fait ce cercle et on travaille ensemble dans ce cercle. Voilà, je vais un peu dans votre sens. Enfin,
il y a eu une époque dans notre beau ministère qui était bien inspiré à ce moment-là, un projet qui était un projet culturel qui utilisait à l'époque l'audiovisuel et qui s'appelait Jeunes téléspectateurs actifs. Mmh. Alors, je ne sais pas si les plus anciens se souviennent de ce que c'était que ce programme. C'était simplement l'idée qu'il y avait plusieurs façons de vivre le dimanche après-midi, on dirait aujourd'hui, devant la télé. On ne posait pas, on pouvait faire autre chose que regarder la télé, c'était le point de départ. Et qu'est-ce que c'était que regarder la télé à 4, à 5 ou 6 dans, voilà. dans
le téléclubs aussi.
En cercle familial.
Oui, c'est ça.
Et le projet éducatif de jeunes téléspectateurs actifs, c'était de découvrir et de maîtriser l'outil télévisuel. Et le projet pédagogique des animateurs comme moi, c'était de montrer comment on pouvait maîtriser l'outil audiovisuel. Par exemple, un exemple type, qu'est-ce que c'est qu'un plan à la télé? Qu'est-ce que veut dire un plan? Et à partir du moment où vous réfléchissez 30 secondes à pourquoi c'est ce plan-là qui est choisi et pas un autre, on imagine qu'il peut y avoir. Hein, la télé, elle est comme ça, puis il y a tout ce qu'il y a autour. Quoi. Bon, c'est tout ce qu'il y a autour, pourquoi c'est simplement ça qui est choisi par rapport à ce qui est dit et plus exactement à ce qu'on veut faire dire, pour être bien clair. Bon. Et quand on commence à grignoter un petit peu le sens de l'outil, on commence à se mettre en route, à compter, à mettre en doute, à faire jouer son libre arbitre. À un moment donné, l'éducation populaire elle a quand même comme objectif de réveiller, de secouer un petit peu et de faire en sorte que les individus réutilisent leur libre arbitre.
Face à la magie.
Oui, c'est ça. Oui, oui. Face à la magie. Oui, tout à fait.
Oui, je suis d'accord avec toi.
Il faut venir à Montreuil pour ça.
Ah. Non, on est assez d'accord.
Mais d'accord sur la famille, hein.
Ouais.
Mais ce qu'on peut quand même observer, c'est que l'éducation populaire, comme vous disiez tout à l'heure, elle n'est pas si populaire que ça, et que pour accéder à l'éducation populaire, il faut des outils que l'éducation populaire est censée transmettre, entre autres, mais que si on n'a pas ces outils, on n'a pas l'appétit, enfin il y a les outils, puis l'appétit, pour aller y voir, pour aller voir derrière le décor, pour aller s'amuser avec d'autres, pour chanter, etc., qu'on y trouve du plaisir, pour apprendre des choses, et que cette... en plus que certains outils intellectuels, psychologiques, ne sont pas partagés par tous, ce qui est normal, hein. Je pense que la représentation de la société actuelle, notre société actuelle est très composite et il y a des représentations de la société qui font que le collectif n'a pas la valeur qu'elle avait peut-être il y a 50 ans ou des luttes sociales. À la fois, il y a un besoin très fort, il y a toutes sortes d'associations qui se créent et en même temps, il y a un problème lié au développement d'un individualisme très fort, un consumérisme, et il y a des gens qui sont très très largement à côté quoi, de tout ça. Peut-être ça a toujours été. Hein.
Chiche. C'est-à-dire que probablement que vous avez raison, mais probablement que j'ai pas envie d'en prendre acte. Pourquoi? Parce que il y a, enfin, on y reviendra peut-être après, mais je comprends bien ce que vous dites. On y reviendra peut-être, je veux dire, une fois, enfin la troisième fois sur le métier, sur la professionnalisation de l'animation. Mais c'est un défi permanent aujourd'hui pour les animateurs que de faire autre chose que de l'occupationnel. C'est un défi permanent parce que il n'y a rien de plus facile. Hein. De 2h à 3h, je fais peinture sur soie. Le bâti, voilà comment ça se fait. Il y a les produits, il y a le truc. Bonjour, bonsoir, la poterie pareil. Bon. Si on ne sait plus pourquoi on fait, ça ne sert à rien. Et donc, c'est en ce sens que c'est un défi permanent. Déjà, vous dites 50 ans. Bon, au début de ma carrière, j'étais directeur de l'EMJ, je me battais déjà. Enfin, le prof de yoga arrivait, tous les adhérents l'appelaient docteur et arrivaient avec leur radio, quoi. Alors, bon, ça, le yoga, c'est pas le toubib qui va vous faire des postures, qui va vous permettre de... C'est pas ça. C'est un exemple. Ou l'expo de fin d'année, ça doit être vachement... Ça sert à quoi si toute l'année, il n'y a pas eu la volonté de faire... Enfin, je veux dire que... Il y a donc un défi permanent pour l'animateur. Et c'est vrai que la pente qui consiste à faire de l'occupationnel, elle est douce, douce, douce. On ne se pose plus de questions insurmontables, il n'y a plus besoin de préparer, on utilise des trucs qu'on a fait avant. Parfait. Sauf qu'on passe complètement à côté de la réalité de ce pourquoi on fait. Je crois que c'est ça la chose. Alors, évidemment, vous avez raison. Quand je dis que je ne veux pas en tenir compte, c'est que je sais que c'est le gros défi qui est aujourd'hui. Et c'est en ce sens que peut-être que ce ne sont plus les mêmes outils. Quand je dis outils, deux mots là-dessus, parce que je m'excuse, un animateur professionnel. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la formation d'un animateur? Quand il entre en formation, il a une boîte à outils qui est vide. Il a une caisse de ressources pour lui qui est vide. Et il doit, à la limite tout au long de son activité professionnelle, remplir, concevoir, modifier, bref, être constamment en train de se dire, tiens, si je fais ça comme ça, avec ça, 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 un outil, alors... Je peux répondre à, etc. Bon, c'est dans ce sens-là. À la limite, il y a une boîte, il y a un contenant qui a des contenus personnalisés chez chaque animateur. Finalement, est-ce que la formation de l'animateur, c'est pas justement de personnaliser tout ça pour voir comment il se situe, lui, par rapport à un groupe, à un individu, etc.
Ça répond. Ouais. Moi, j'ai bien aimé, vous utilisiez ce mot « appétit ».
Et je vous plaisir aussi.
Oui, voilà, vous m'avez fait réfléchir à quelque chose. Je crois que je viens de prendre conscience un instant. C'est que dans l'éducation, ben oui, ça est là pour ça. C'est que dans l'éducation populaire, on ne parle pas beaucoup de désir. Hein?
Oui, c'est vrai.
Parce que c'est pensé d'en haut.
Sûrement aussi. Et encore, en principe, non, puisqu'il y a cette idée du cercle, enfin, vous voyez, des égaux, quoi. Mais c'est vrai, oui, que ce serait intéressant de réfléchir un petit peu plus là-dessus. Et puis, du coup, vous me faisiez penser à, justement, à contrario, on n'a pas encore prononcé le mot consensus. Moi, c'est un mot que j'aime pas du tout. Voilà. Mais je trouve que, si on regarde le rôle de l'éducation populaire à plusieurs reprises dans l'histoire, elle a eu des effets de consensus. Parce que, j'ai parlé du mot partage. Partager ensemble des pratiques, partager des savoirs, hein. Ce partage, c'est comme une espèce de société utopique où tout le monde aurait sa place. Donc, je dirais que souvent, il me semble que l'éducation populaire, alors qu'elle est presque naturellement révolutionnaire, elle a souvent aussi servi à lisser des conflits. Alors là, je vais peut-être... j'ai un syndicaliste à côté de moi. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'on travaille jusqu'au moment où on se met d'accord. Donc, comme ça, on prend son temps... Alors, c'est bien, ça produit l'humanisme, justement, ce que je disais au début. Mais quelquefois, peut-être que le conflit aurait été plus productif.
Mais réfléchissons sur le mot.
Vous voyez, ça m'a fait penser à ça.
Sur le mot consensus.
Oui.
Le consensus, parce que ça, c'est un mot très intéressant, y compris d'ailleurs pour essayer de mieux cerner notre objet. Le consensus, il est a priori, il faut qu'on soit tous d'accord. Donc, dans ton argument, tu peux... Les trucs qui font chier tout le monde, qui risquent de nous diviser, on ne va pas faire ça, on n'est pas là pour ça, donc on va faire un truc. C'est les discussions entre les eurocrates. Vous en faites pas, monsieur le ministre, vous disiez l'un de ceux-là dans les gouvernements d'avant, pour être clair, me disait, j'arrive à l'Europe, on me dit, monsieur le ministre, il n'y a pas de problème, tout est sauf, il n'y a plus de problème, ça va, tout est bien, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas. Et le gars arrive en disant, mais attendez, je ne vous ai rien demandé. Moi, je veux savoir ce qui marche, ce qui est bien. Non, vous en faites pas, le texte est prêt, il n'y a pas de maquillage. Si, je veux voir le texte. Il a commencé à s'apercevoir que c'est une erreur, son truc. Tout était coupé, il n'y avait rien qui disait, il n'y avait rien de saillant, etc. Bon. C'était un ministre chargé de l'enseignement professionnel à l'époque. Bon. Et donc, très concrètement, le consensus, si c'est cette définition-là, c'est l'anti-éducation populaire, l'anti-évolution, tout. Le consensus, qu'on appelle souvent mou, c'est-à-dire... qui est ressenti comme a priori nécessaire, la construction du débat, les conditions du débat public, on les a pas. Par contre, si effectivement c'est une construction, c'est-à-dire que si on n'a réussi pas un vrai débat qui
traite des contradictions.
S'il y a des arguments incompatibles lorsqu'ils sont exprimés une première fois, finissent par non pas s'amoindrir les uns les autres, mais de construire un troisième argument. C'est-à-dire qu'on a construit une synthèse. Alors là, c'est intéressant. Parce que c'est un groupe qui a produit une construction collective. C'est pas l'un qui a gagné contre l'autre. Ou alors, on va pas discuter parce qu'on perd du temps, puis on s'énerve, tout est d'accord, il n'y a plus rien. C'est de l'eau tiède. Bon. Si le consensus eau tiède, c'est comme ça qu'on le définit, ça sert à rien. Si c'est le résultat d'une élaboration, d'une construction collective, moi je suis plutôt pour. Mais les conditions dans lesquelles aujourd'hui la vie sociale s'observe et fonctionne ne me semblent pas du tout réunies pour avoir autre chose que de l'eau tiède. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que collectivement, les citoyens n'ont plus d'espace pour construire quelque chose en commun. Et c'est pas en votant une fois tous les 6 ans, une fois tous les 5 ans, qu'on va réussir à bâtir quoi que ce soit. Ça, c'est pas possible. Donc, dans l'éducation populaire, il y a aussi l'idée de démocratie participative. Comme un débouché. Comme quelque chose qui apparaît comme possible. Comme quelque chose que l'on comprend. Parce qu'aujourd'hui, on fait un sondage. C'est quoi la démocratie représentative? C'est quoi la démocratie sociale? C'est quoi la démocratie participative? Si d'ailleurs vous intéressez 10 personnes sur 100, ça sera déjà vachement bien. Mais si dans les 10 que vous avez intéressés, il y a effectivement une forte compréhension de ces différences-là, de ces outils-là, ces méthodes-là, du débat public-là, eh ben, vous aurez beaucoup de chance. Donc, l'autre défi, en fait, c'est celui-là. C'est recréer les conditions du débat public. En traitant les conflits, ce n'est pas grave d'être en conflit. Ce n'est pas grave. S'engueuler n'est pas grave. Dès lors que ce n'est qu'un moment et qu'on inscrit ce moment dans un ensemble dont la conclusion doit être la construction. Ou en tout cas d'aller jusqu'à voir on est d'accord, on n'est pas d'accord. Hein? On peut faire un truc commun, c'est pas si A agresse B et B agresse A, c'est ni A qui gagne sur B ni B sur A, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est qu'est-ce qui sort de la confrontation A et B.
Le chaos pour créer du mouvement, que ça donne quelque chose de.
Oui, c'est.
Tout à l'heure, oui. Ils sont aussi quoi.
C'est sûr qu'à partir de là, tout le monde n'est pas favorable à la recherche de ce qu'il y a après A et B. Hein.
Oui.
Il vaut mieux faire foutre sur la gueule de B A, qui demande d'ailleurs que ça, et puis dire après, oui, ils ne sont pas d'accord, donc allez vous faire foutre, c'est terminé. Plus rien à voir. Non. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Quand vous parliez de l'État, dans l'autre, moi, j'aimerais que vous ayez raison. C'est-à-dire que j'aimerais m'apercevoir, en tant que fonctionnaire, que mon ministère pense des choses sur l'éducation populaire. Là, je serais très heureux. Mais le drame, c'est qu'en dehors du baniment de l'épée, mon ministre ne sait rien faire d'autre.
Celui-là.
En tant que secrétaire général...
Oui, c'est vrai, c'est au sens propre. Oui.
J'ai refusé de voir cet homme qui ne comprend rien.
Monsieur Lamour.
C'est tout. J'assume ma position, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis au contraire, s'il y a conflit entre nous et qu'il enlève le gant, eh ben, tant mieux, comme ça on construira peut-être une synthèse.
Il y a une chose qui m'a un peu surpris, c'est que vous avez dit l'éducation du peuple par le peuple. Par le peuple, c'est ça qui m'a un peu surpris. Souvent, c'est le peuple qui construit une élite, qui redistribue le savoir.
Est-ce que vous êtes sûr que si on essaie de se connaître mieux, j'ai l'impression que je vous en ai plus dit sur moi que vous sur vous. Il est peut-être là, sur une feuille de papier. Ce que vous savez, je ne le sais pas forcément. Que peut-être que si on fait le tour, on va s'apercevoir qu'on a un certain nombre de savoir-faire, de choses intéressantes qui peuvent intéresser 2, 3, 4, voire le groupe. Qu'est-ce que le groupe, à partir de cette collection de savoir-faire, peut construire ensemble? J'en sais rien. Et a priori, je ne me dis pas, je vais m'en remettre à celui qui sait pour apprendre. Hein? C'est une démarche qui n'est pas facile, qui est absolument anti-politiquement correcte, pour le coup. Hein? Moi, l'élite, je peux l'entendre. C'est un mot qui a été politiquement très difficile à cerner, hein? Et parfois anti-inégalitaire. tout dépend du rôle et de la fonction qu'on attribue à cette élite. Quelle est sa fonction? Si c'est de briller au firmament et de distribuer son savoir, quand elle veut d'ailleurs, et parcimonieusement, ça ne m'intéresse pas. Si c'est effectivement des gens qui ont pour fonction d'avoir appris, d'avoir construit un savoir dans le but de le retransmettre, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais, en gros, c'est toujours la question de savoir comment on va de 300 mètres à 3000 mètres. C'est-à-dire que est-ce qu'on va me gaver ou est-ce qu'on va me mettre en situation pour que j'apprenne? Pourquoi est-ce que l'éducation nationale a de telles difficultés aujourd'hui? C'est parce qu'elle fait comme si tout le monde pouvait faire la même chose dans le même espace-temps.
Si je peux me permettre de commenter, non, au contraire, parce que mais tu as dit le mot éducation nationale avec une certaine vivacité. Hein? Et la façon que j'aurais de vous répondre, c'est de revenir sur le concret de ce qui s'est déroulé depuis un certain nombre de décennies, en tout cas depuis au moins la libération. Les rapports entre les tenants de l'éducation populaire, hein, tu parles des animateurs, mais il y a aussi des permanents d'associations, il y a eu tout un monde là, hein, des professionnels, des bénévoles, des militants. Et les gens de l'école, eh bien, si vous regardez bien ça, si vous l'observez tranquillement, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de relations. Il y en a un petit peu. On va trouver quand même des endroits où ça communique un petit peu. Mais on va dire, hein, si on fait un petit peu de généralité, globalement, les relations de ce monde de l'éducation populaire avec les gens de l'éducation nationale, ou en tout cas les enseignants de l'école, ne sont pas excellentes. C'est un peu bizarre, parce qu'il y a le mot éducation, a-t-on dit. Hein? Mais quand on le regarde bien, ça se frite.
C'était pas comme ça, pour sortir de la guerre. Il fallait participer, il fallait être partie prenante, bien sûr. Mais si vous aviez envie, par exemple, si pour des raisons personnelles, vous n'aviez pas pu poursuivre vos études, et vous aviez une ferme envie d'apprendre, eh bien, il existait à l'époque ce qu'on appelait, je ne sais pas si vous avez ça en souvenir, ou si vous en avez entendu parler, mais ce qu'on appelait les sociétés savantes, qui étaient, bon, on allait s'inscrire, on prêtait. Les lycées prêtaient leur place. Tous les soirs, y compris le dimanche matin.
Les réunions avaient lieu dans le lycée.
Dans le lycée. Mm-hmm. Dans le lycée Condorcet, pas Condorcet, enfin je me trompe, dans ce lycée étaient ouvertes toutes les classes, parce qu'on était quand même nombreux, mm-hmm. avec des professeurs de choix, c'est-à-dire de l'éducation nationale. Mm-hmm. Et qui faisaient leur travail comme ils le faisaient dans leur classe pour nous mettre au niveau et tout.
Mm-hmm. Oui, je suis bien d'accord.
Quand ce genre de choses a disparu, mais c'est vrai que moi j'y ai fait tout mon temps pour arriver à ce que je voulais. Et parfois, ben, je trouvais que c'était fait par l'éducation nationale, avec des professeurs extrêmement compétents.
Moi, je pensais juste à un autre exemple. Je me rappelle, vous savez, ça existe encore, les foyers socio-éducatifs. Hein? Ça a été une espèce de réglementation qui est venue par l'éducation nationale, mais qui était très éducation populaire, les foyers socio-éducatifs. Hein? Et moi, j'avais étudié ça assez près dans les années 60-70, hein, à ce moment-là, ça se multiplie dans les collèges et lycées, et très souvent, le proviseur se trouve président d'office, sans demander l'avis de personne, de cette association 1901, parce qu'il y a eu des associations 1901, des foyers socio-éducatifs. Alors, vous aviez quand même quelques profs qui militaient, d'une certaine façon, en plus de leurs horaires, hein, mais assez vite, c'est posé des questions locaux, c'est pour ça que je pensais à cet exemple. Où on disait, ah ben oui, mais on ne peut pas garder les élèves comme ça au-delà des horaires, parce que la sécurité, machin, voilà. Et donc, du coup, ça a été un petit peu, hein, on a été un petit peu ce mouvement-là, qui aurait pu être très, très intéressant. Alors, sans doute, dans certains endroits, il a été, mais quand même, globalement, ça n'a pas marché très, très bien, le foyer socio-éducatif. Et pourtant, là, on était bien dans cette... et puis là, il n'y a plus de frontières, du coup, parce qu'on avait de l'éducation populaire à l'intérieur même d'un lieu scolaire, tel le collège ou le lycée. Et ça pouvait être super, ça, quoi.
Mais la cycle de l'enseignement qui a démarré à la...
1866,
c'est quand même plutôt que les universités populaires.
Oui.
C'est attaché beaucoup... Enfin, c'était des enseignants qui en étaient responsables. Et ça a certainement tout de même permis peu à peu de transformer la pédagogie enfin, peut-être sur le tard, peut-être après-guerre, mais certainement les transformations de l'enseignement ont quelque chose à voir tout de même avec les mouvements d'éducation populaire qui se sont développés après-guerre.
On a beaucoup d'exemples, plutôt hein, début XXe siècle, hein, où on a l'instituteur, hein, ou le prof, membre de la Ligue de l'enseignement. La Ligue d'enseignement, évidemment, est très rurale hein, au départ. Hein, c'est beaucoup dans des campagnes, avec leur film sous le bras. Ils vont dans les villages passer le film, créer un espèce de ciné-club. Hein, après le débat, ils vont dans des mairies, dans des locaux scolaires, ce qui est disponible. Hein, et ça a été l'un des premiers militantismes de la Ligue de l'enseignement. Effectivement, je dirais que ça a fait les deux. Ça a pu aider à créer un débat public dans les villages à propos d'un film ou d'autre chose, mais aussi ça a fait vivre à l'instituteur, ça l'a fait sortir de sa propre école. Et donc ça a fait des échanges qui souvent ont été très, très productifs. C'était vraiment le modèle du militant de la Ligue de l'enseignement au début.
C'est intéressant de savoir pourquoi le cinéma a tellement... Ouais. Été pris en compte par la Ligue de l'enseignement et par c'était
important.
Très important. Puis après la télévision,
les téléclubs. Ciné-clubs et les téléclubs aussi.
On disait tout à l'heure, tu parlais de 1901, mais on pourrait. Je pense que j'avais noté 1901 point de départ ou conclusion. Quoi. Et la question que vous posez sur l'origine en fait de la Ligue de l'enseignement, 1866, c'est le point de départ d'une véritable mobilisation à partir d'une pétition, hein, un sou pour l'école publique. On est en 1866, les lois Ferry, c'est 82-83, hein, donc plus de 20 ans plus tard. C'est-à-dire que c'est la montée, il y a l'estime en quelque sorte, une véritable revendication. Quand ils déposent 5 ans après le point de départ, c'est... pétition à Versailles, il y a 1 267 267 signatures en 5 ans. Dans les conditions de l'époque, hein, ce n'est pas la pétition sur le coin du marché quand même, hein, si on compare. Donc il y a eu vraiment la construction d'une revendication, et puis le ministère y étant favorable, il y a eu les lois Ferry. Et tout ça, ce n'est pas quelqu'un qui dans sa tête a dit tiens, un jour je vais faire ça. C'est que c'était une revendication. Ça a été tout un. Et 1901, c'est un résultat, c'est pas un point de départ.
S'il n'y avait pas eu cette... Il a fallu 23 ans pour le projet de loi 1901, il était fait 23 ans avant.
Tout à fait.
Par Malek Rousseau. Hein, 23 ans
avant. Malek Rousseau, oui.
Donc il a fallu 23 ans pour le faire passer. Rien.
Mais on dit que, par exemple, l'école est obligatoire depuis... Enfin, que c'est Charlemagne qui, à l'époque, qui a fait l'école obligatoire.
Mais non, pas obligatoire. L'école
tout court, mais pas obligatoire, c'est Jules Ferry.
Gratuit, laïque, obligatoire.
Oui, ça, c'est... Parce qu'avant, il y avait de l'école, mais il fallait trouver les moyens de la payer. On avait de l'école dans des villages, mais il y a des mères qui... Vous savez qu'il y a des gens qui... Dans des villages, c'est pas beaucoup, ça, en 1830, parce qu'il y avait pas... On avait des enseignants religieux, parfois. Il y avait des congrégations enseignantes. Mais on avait aussi des... C'est même pas laïque, c'était des gens que le maire allait chercher. Ils ouvraient une ferme, ils mettaient quelque chose, et puis demandaient un petit impôt supplémentaire local à ses électeurs. Et là, on fabriquait une école, comme ça. Mais elle n'était pas obligatoire dans le sens où l'État ne s'en mêlait pas. Hein, jusqu'à 1882, c'est vraiment là la date qui a rendu l'école obligatoire en ce sens.
Victor Duruy,
oui, il y a eu ce moment-là.
A fait beaucoup. Quand
beaucoup.
On a rendu l'école obligatoire et générale, les choses avaient déjà bien avancé.
Ça avait avancé, c'est pas venu d'un coup.
Duruy, même avant, et en parallèle avec la Ligue de l'enseignement, si c'est la même date.
Oui, tout à fait.
Monsieur.
C'est la même période. Non, tout ça tout ça est cohérent et repose sur une mobilisation, si on veut, sur une mobilisation sociale, populaire, je veux dire massive. Parce qu'un 1 200 000, c'est quand même pas rien pour l'époque. Et tout ça sur le fait, le sou pour l'école publique, sur une revendication qui était que l'État s'en mêle. Alors qu'à l'époque...
Transformation.
Oui.
Transformation sociale.
Un mot sur transformation sociale. Est-ce que c'est forcément politique? C'est-à-dire, d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'on entend par politique. C'est partidaire, les socialistes, les communistes, les radicaux, Sarkozy, et puis le débat actuel, c'est fantastique, tout ça c'est people. Ou bien c'est l'ensemble des règles qui permettent à une société de vivre. Avec le préambule de la Constitution de 58 qui reconnaît aux partis politiques le rôle d'exprimer les opinions de secteurs de la population, mais qui ne définit pas la politique à partir des partis politiques. Donc, est-ce qu'on est dans une configuration où parler de transformation sociale est forcément un discours politique? Oui, mais politique perçu dans le sens général, c'est-à-dire qui s'occupe du fonctionnement de la cité. Et donc, à ce titre-là, je crois que ce n'est pas un mot tabou, c'est pas un gros mot politique. Au contraire, c'est quelque chose de tout à fait noble et qui est cohérent avec la démarche de responsabilisation citoyenne qu'est l'éducation populaire. Moi, je plaide ou je milite pour une, pour faire en sorte que ce mot-là soit un mot comme les autres. Plutôt, d'ailleurs, plus beau que les autres. Il n'y a pas, c'est pas caca, quoi, la politique, en gros.
Moi, Gérard, j'aimerais bien te poser une question pour changer un peu. Tu viens de dire tout à l'heure à propos de l'école obligatoire, l'État s'en mêle. Est-ce que tu penses que si éducation populaire il y a, il ne fallait absolument que l'État s'en soit mêlé? Parce qu'on aurait pu, juste parce que vous savez, jusqu'en 1900, on va dire 44, l'État ne s'en est pas mêlé. Hein? L'éducation populaire, c'était des mouvements, des groupes, des associations qui fonctionnaient avec leur argent privé, hein, par la cotisation, c'est tout. Hein, le moment où il y a eu un ministère, etc., c'est une histoire où l'éducation populaire est déjà très très fortement en place. Donc est-ce que l'État, tu vois ma question, est-ce que c'était bien, oui, pas bien, indispensable?
C'est une bonne question et je te remercie de me l'avoir posée. Non, elle est cohérente par rapport à l'évolution de la réflexion, c'est-à-dire que quand l'État se mêle de quelque chose, est-ce que c'est parce qu'il est convaincu qu'il est nécessaire de faire pour, ou bien est-ce qu'il s'en mêle parce qu'il faut remettre de l'ordre? C'est l'éternelle et permanente question. Et c'est vrai que dans le programme du Conseil national de la Résistance, puis dans le plan Langevin-Vallon, il y a une reconnaissance, une direction de la culture populaire.
Non, c'est pas éducation populaire, non,
c'est culture populaire. Et qui est placée auprès du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est vrai qu'on restera comme ça jusqu'à la Ve République, en gros. Mais dans toute cette période, l'idée, c'est que, comme les jeunes ont participé d'une façon active au réseau de résistance, à la défense de la France, à la libération du pays, il est donc nécessaire de les reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des acteurs. Et puisqu'ils sont des acteurs, alors, il faut, en leur reconnaissant ce rôle, leur permettre de poursuivre ce travail. Mm-hmm. Le plan Langevin-Vallon, il était parfait de ce point de vue, sauf qu'il n'a jamais vu le jour. Première difficulté. Donc on s'y réfère, tiens, Condorcet.
Ben, l'exemple d'éducation populaire, le plan
Langevin-Vallon. Ah ben, tout à fait. Mais bon, ça ne marche pas.
Ça fait l'équivalent d'une quarantaine de cartons, parce que c'était beaucoup d'écriture. Hein. Ouais. Moi, je l'ai vu en archive, hein. C'est extraordinaire.
Non, il y a eu un gros
il y a des idées merveilleuses. Hein. C'est la pédagogie au quotidien. C'est... Il y a une ferveur là-dedans, c'est extraordinaire. Mais quand ça a été rendu, c'était fini, quoi.
C'est-à-dire que le temps de l'élaboration... ça y est, le temps politique, c'est toujours... Ça s'est beaucoup accéléré dans l'actualité, mais c'est toujours, de toute façon, un temps qui est très court par rapport à l'élaboration de la pensée des projets. Donc, quand ça se termine... c'est en fait la Ve République qui a commencé à se mêler, et à se mêler fortement, à la fois de l'éducation populaire et à la fois de la culture. D'ailleurs, il y a une anecdote tout à fait intéressante, c'est que quand on a demandé à Malraux d'être ministre, ce n'était pas la culture qu'on lui avait projeté, c'était la jeunesse et l'éducation populaire.
Au début, c'était l'information qu'il avait.
C'était même l'information.
Ouais, puis après, oui.
Et donc, les choses ont évolué, lui-même se sentant mieux, enfin pas très bien représenté par ce qu'on lui donnait, et ça a fini finalement au ministère des Affaires culturelles. Je ne conteste pas l'action d'André Malraux dans ce ministère. Mais c'est à partir de ce moment-là que ce qu'a commencé à vivre, que c'est fossilisé, cristallisé, le débat entre les maisons de la culture et les maisons des jeunes et de la culture. où il y avait d'un côté l'élite, on va reprendre ce, la culture produit culturel, hein, et puis les activités socio-culturelles qui avaient comme objectif, enfin qui avaient comme débat, qui avaient comme résultante de faire reconnaître, avec beaucoup de pognon, la culture, mais la culture pas comme une, comme une élaboration quotidienne, la culture comme une contemplation de l'objet culturel. Musée, pièces de théâtre, on se passe d'une maison de la culture à l'autre, on sur tout le territoire les spectacles, hein, on en crée quelque part, puis on fait tourner dans le réseau des maisons de la culture les spectacles, et la part de la création, c'est-à-dire de l'irruption du citoyen dans le fait culturel, petit, petit, il y en avait, mais pas beaucoup.
Je te laisse continuer, juste une petite citation, tu permets?
Oui, bien sûr.
Justement, Malraux, oui, qui n'aimait pas du tout l'éducation populaire, comme on dit, je cite, hein, j'ouvre les guillemets, « L'éducation populaire est éperdue de bonne volonté, pleine d'intentions généreuses, mais terriblement isolée des grandes valeurs littéraires et artistiques de notre pays. Peu d'artistes ont consenti à montrer pour l'éducation populaire autre chose qu'une condescendance charitable, et le peuple lui-même, ému par cette charité, la recevait avec une humilité reconnaissante et parfois gênée. »
Oui.
C'est dur, hein.
Il avait, Malraux avait généré...
C'était vraiment c'est terrible.
C'est pas faux que je sois sûr.
Ah non, non, non.
Qu'est-ce qui est intéressant?
Mais ça repose sur... Tout ça, ça repose sur une pensée qui était chez Malraux, alors que ce soit lui qui l'ait produite ou...
Là, c'était quelqu'un de son cabinet. Hein.
Oui, peu importe. C'était la théorie du choc esthétique. C'est-à-dire que Malraux partait du fait, enfin, sa politique partait du fait la culture, c'est une mise en confrontation d'un objet chargé d'une œuvre d'art et un individu, un homme, une femme, un groupe. Et que de ce contact, de ce choc-là, va naître une révélation, une progression, etc.
La médiation.
Alors, là, c'est un concept sur lequel a été bâti les maisons de la culture et toute la lignée. Et puis, en face... Parce qu'il faut quand même aussi théoriser, même si l'éducation populaire, ces praticiens ont tant de mal à écrire, à part quelques grands anciens comme Benigno Cáceres. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est par un acte d'éducation, par une progression individuelle et collective, que l'on peut entrer dans une possibilité de comprendre. Et par exemple, ce qui est intéressant, c'est le travail qu'ont pu faire l'association du théâtre populaire créé par Jean Villard. Hein. C'est-à-dire que le projet, c'était bien sûr de montrer un produit fini, à la différence de l'objet dont je parlais tout à l'heure, la perspective de l'atelier théâtre du MJC. Montrer un produit fini, mais de ne pas s'en arrêter là. C'est-à-dire de travailler avec les associations locales de théâtre populaire qui avaient comme objectif de décrypter, de regarder comment c'était fait, d'entrer progressivement dans le monde de l'auteur et de la pièce traitée. C'est-à-dire qu'en gros, il y avait non seulement le produit, mais aussi l'acheminement vers la découverte personnelle de ce que c'était. Vous avez peut-être fait à l'école cette façon de comprendre les tableaux qui est celle de vous donner d'abord le titre, l'auteur, et de vous montrer le tableau qu'après que vous aurez imaginé ce que l'auteur avait pu faire. Et bien ça, c'est une méthode qui permet effectivement d'aller beaucoup plus loin que la simple mise en relation. En tout cas, parce que pourquoi? Vous avez, vous, préparé la découverte, vous avez imaginé. En gros, vous avez fait votre propre création, votre propre imagination de ce que ça pouvait donner que machin ou machine traite de ça. Et quand vous voyez, ce qui n'a probablement strictement rien à voir avec ce que vous avez imaginé, eh bien, l'esprit compare ce qu'il voit et ce qu'il a imaginé. Et donc, on va beaucoup plus loin. Donc, en gros, c'est le choc. On pourrait passer beaucoup de temps là-dessus parce que ça nous a quand même, et ça nous occupe encore depuis une cinquantaine d'années, cette affaire-là. C'est-à-dire la relation entre un concept mis en œuvre par Malraux et une revendication de culture populaire qui était portée par les mouvements d'éducation populaire de l'époque et qui reste encore aujourd'hui un espèce de clivage important qui existe entre les uns et les autres. Un jour, je suis porté candidat à la direction de la Maison de la Culture de Bourges. J'étais directeur du Maison de Jeunes. Il a fallu que j'en fasse des trucs pour arriver à me trouver d'ailleurs en état de sélection. Mais évidemment, le plat est passé. Parce que, au grand jamais, la culture n'est pas... ne peut pas être... Et la seule... une question qu'on m'a posée, c'est: et alors, vous allez faire quoi du printemps? de Bourges. C'était gros truc. Vous allez faire quoi du programme? On va dire, on va étudier. C'est-à-dire que l'acte de gestion était plus important que le reste. Pourquoi veut-on faire ça? Quel projet on a? Comment on va créer une synergie entre ceci et cela? Ça, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est êtes-vous un bon gestionnaire et comment est-ce que vous allez gérer? Et ça, cette affaire de la gestion, elle nous a coûté très cher. Aussi parce que certains directeurs ne savaient pas gérer, ça c'est sûr. Donc il fallait de toute façon un minimum. Mais aussi parce que...
Mais ça coûte.
Je ne veux pas m'immiscer dans les débats internes.
Ça y est, il ne le faut plus.
Mais quel projet pédagogique pour le coup, hein? Qu'est-ce qu'on se propose de faire et comment? Ça, c'est ce que dit Malraux. On regarde avec condescendance ce type de problématique.
Oui. Justement, parce que ça m'a fait penser que j'ai de la Rabou Cassandre qui avait sorti le numéro spécial sur l'éducation populaire. Et là, parce que je parlais justement ceux, on parle de Jean Villard, etc., toutes les expériences donc, il y a dans la création, etc., dans ce mouvement-là, donc c'est pas mal. Enfin bon, ça donne des repères, quoi. Ça vous intéresse? J'ai demandé en dépôt vente quelques numéros. En disant, ben voilà, quoi, ce qu'on ne retrouve pas forcément.
Ça, c'est important parce que, alors, pour le coup, j'ai beaucoup de mes collègues dans mon ministère, et avant que, au sortir de la guerre, dans les années 50, qui avaient comme support, comme substrat d'action, le théâtre. C'est-à-dire que l'idée globale d'une partie des acteurs d'éducation populaire, c'était de dire. La méthode, c'est pas la réflexion, c'est pas, c'est l'action culturelle. C'est-à-dire que c'est à partir d'une pratique culturelle que l'on peut effectivement plus facilement créer des groupes, faire conquérir l'autonomie, etc. Et c'est vrai que la plupart de mes prédécesseurs, quoi, au ministère, les instructeurs nationaux d'éducation populaire, étaient à 75% des théâtreux, on va dire. Dont,
c'est surtout eux qui parlaient plus connus. Fort.
Oui, voilà. Les théâtreux ont toujours parlé fort.
Oui, c'est normal, c'est leur métier.
En ce cas, moi je travaille à l'ARIA, je travaille avec Robert Hennouchi encore, ouais. Donc voilà, en éducation populaire.
Ouais. Là, c'est revendiqué, là.
Voilà, et je suis un ancien stagiaire qui suis devenu formateur au cours des années. Mm-hmm. Et donc, évidemment, il y a un croisement entre les générations, puisqu'il y a des formateurs. 30 ans, on a 75 ans, en passant par des ingénieurs ou des gens qui ont eu des responsabilités dans les centres dramatiques. Et les gens viennent là, enfin les stagiaires, les gens qui viennent faire de l'éducation populaire, ils viennent. J'ai bien aimé la référence à Jourdain qui est sur le titre, parce qu'effectivement, ils viennent là sans savoir qu'ils font de l'éducation populaire. Ils viennent là, dans cette aventure, comme usagers. Comme d'ailleurs, moi, je suis venu à la maison populaire, je me suis installé à Montreuil. Je voulais un cours de clarinette. C'était les cours le moins cher, je me suis super. Et tout d'un coup, je me suis laissé prendre. Et donc, je suis devenu d'un usager un acteur.
Bel hommage.
Non, mais c'est vrai. Mais à tous les niveaux, on est usager, acteur de quelque chose, formateur, enfin bon. Ouais. Voilà. Et tout d'un coup, quand on se retrouve en discussion en Corse, et que lui vient voir le résultat de 4 semaines ou 5 semaines de réalisation, de spectacle. Bon. Il y a des discussions et tout d'un coup, tout le monde se rend compte que ce qu'ils ont fait, enfin, un des stagiaires qui sont venus, que ce qu'ils ont fait là pendant 5 semaines, c'est du théâtre populaire. Enfin, l'éducation populaire, pardon. Mais aussi du théâtre populaire. Et tout d'un coup, ce mot d'éducation populaire, dans la génération des trentenaires, des vingtenaires, des trentenaires, et en plus qu'ils viennent, certains viennent de Roumanie, de Hongrie, de Chine, ils se retrouvent en plus en Balagne. Dans une région où les téléphones ne passent pas, où il y a 2 heures de la mer, c'est compliqué tout ça. Et d'un coup, ce terme d'éducation populaire les impressionne, comme si d'un coup ce mot de populaire lié à l'éducation était devenu soit obsolète, soit ait perdu son sens, soit tout d'un coup ramené au mur de Berlin, à la guerre froide, voilà. C'est bon. Pour eux, c'est aussi incroyable que d'avoir une piscine qui s'appelle Maurice Thorez, si vous voulez. Voilà, c'est aussi bien. Vous la citez les militaires. Voilà. Hein? Non, mais tout d'un coup, il y a quelque chose. Et je me dis, à l'issue de cet été passé ensemble, qu'est-ce qui leur reste de ça? Et comment ils arrivent à être contaminés, hein, au sens positif du mot, par cet idéal de l'éducation populaire?
Vous rendez un bel hommage à la fois à l'action menée dans ces lieux, mais aussi à un formidable outil que sont les stages de réalisation.
Qui ont démarré en 1951.
Tout à fait. Oui, tu as raison. C'est probablement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un stage de réalisation? C'est 3 semaines, à peu
cinq.
Près.
Cinq. Dès le début, 5.
Oui, c'est plus ça maintenant. Cinq semaines. Oui. Pendant lesquelles. Un groupe
est
réuni pour réaliser une œuvre, pas forcément de théâtre, enfin principalement, c'était ça quand même, hein. Principalement, mais pas uniquement, musique, film, etc. Enfin bon, une œuvre, prenons une pièce de théâtre, je vais prendre la pièce de théâtre parce qu'elle est plus complète dans le bon. Et où on arrive, chacun avec sa brosse à dents et ses valises, et où le résultat, 5 semaines après, c'est un spectacle. Sachant qu'on va avoir à faire, peut-être le texte aussi, les décors, les costumes, la lumière, tout quoi. C'est-à-dire que ce qui sort du groupe qui est venu pour ça, c'est ça. La seule différence entre les deux ça, c'est que le premier, il est dans la tête, il est fumeux, et que le dernier, cinq semaines après, c'est une réalité. Eh bien, cette transformation-là, elle est consubstantielle, enfin, elle est vraiment de l'éducation populaire.
Et comme vous disiez.
Et c'est tout le monde qui fait tout.
Voilà, et il y a des niveaux différents. Vous avez des comédiens qui n'ont jamais mis les pieds sur un plateau, avec des gens qui sont en formation continue, style AFDAS, avec des comédiens de différents niveaux, des gens qui parlent à peine le français parce qu'ils viennent soit d'Algérie, soit du Sénégal, soit de Chine, enfin bon. Et tous ces gens se retrouvent, moi, mon cas, ça a été de monter avec ces gens-là. Bonjour, type de Victor Hugo, pièce de 2h30, 3h, avec 5830 de Alexandrin à prendre. Voilà, avec le travail qui peut être susceptible d'être développé avec Alexandrin et Volien. Mm-hmm. Et tout d'un coup, voilà, c'est que finalement, sans démagogie, sans discours un peu comme ça en l'air, c'est vrai que tout d'un coup, il n'y a pas des initiateurs, des initiés. Finalement, on est tous un petit peu d'égalité.
Tout voilà. À fait.
Alors, effectivement, Pierre Vial de la Comédie Française, qui est le bras droit d'Antoine Vitesse pendant 40 ans, il a peut-être plus d'expérience et de choses à m'apporter sur l'histoire et sur son expérience que moi qui suis dans le métier depuis une quinzaine d'années. Mais ça n'empêche que quand on est en train de bosser ensemble et qu'on joue ensemble, on est deux acteurs.
Mmh. Oui, y compris ceux qui n'ont pas d'expérience. Je crois que c'est vrai que moi j'en ai fait quelques-uns. Il se trouve que mon premier métier c'était comédien. Et que j'ai fait des stages de réalisation avec des collègues CTP de Jeunesse et Sport, où moi j'étais comédien professionnel, avec, on était une 40-45. On montait le cercle de Crec au Casino de Brecht, on devait être une 40-45. Il n'aurait jamais pu le monter sans un stage de réalisation, évidemment. Et donc, c'était. Bien sûr. On a fait tout, des masques, des costards, les décors, les lumières, tout. Mais on avait un vrai spectacle qu'on a joué après. Et le bonheur de tout le monde dans cette affaire-là, c'était quand même quelque chose d'important. On retrouve votre idée du plaisir. Hein. C'est-à-dire que quand on a déclenché quelque chose qui plaît et qu'on prend de l'intérêt à le faire, c'est du plaisir. Et en général, le chemin est proche vers cette autre chose qu'on touche parfois du doigt, qui est le bonheur.
Et alors,
je n'hésite pas à employer ce mot-là.
Utopique, 40% de nos subventions, on fête l'année dernière, la dixième édition des rencontres théâtrales. Grâce aux rencontres théâtrales de Haute-Corse, la classe, une seule classe, a été sauvée. Vous savez ça par cœur. Bon, il y a 40% des subventions qui ont été retirées. Et les délégués du ministère dont on parlait tout à l'heure sont venus cet été, ont fait ça évidemment extraordinaire. Et ils sont venus nous dire, à l'issue des deux jours de leur visite à Olmi Capella, qu'il y avait des grandes chances pour que la subvention n'était pas renouvelée pour la première année sur l'édition 2017.
Bien sûr, voilà. Mais il y a même de fortes chances pour que ce soit pas du tout. Voilà. Il faut dire déjà que Robert Renucci a pu être, a pu poursuivre. Alors à l'époque, moi j'étais secrétaire général du syndicat, et qu'on en a parlé avec la ministre, en l'occurrence Marie-Georges Buffet, sur la nécessité, à l'époque où on avait déjà quelques difficultés de décentralisation pour la Corse, et que grâce à elle, on a réussi à s'y opposer, et donc à maintenir, notamment Robert Renucci en Corse. Parce que là, il y avait une volonté politique de sa part, et syndicale de la nôtre, qui consistait à dire, on ne peut pas faire ça. On est obligé de trouver une issue positive à cette affaire.
Je fais un petit brin d'histoire derrière ce que vous avez dit tous les deux. Bon, donc, premier stage de réalisation, il y a une circulaire du ministère, hein, 1951. Donc là, tout doucement, ça se met en route. Et moi, j'ai connu, tu as parlé tout à l'heure des instructeurs de théâtre, hein, je pense à Henri Cordreau notamment. On a donc fait comme ça plusieurs 4-5 stages dans différents coins de France de théâtre. Beaucoup de ceux après dont tu parlais qui ont été recrutés comme directeurs de théâtre par le ministère de la Culture étaient des anciens stagiaires des stages de réalisation. Et moi je connais des gens qui, de ceux qui montaient ces stages et qui eux étaient du bord plutôt éducation populaire, jeunesse et sport, hein. Je pense vraiment à Wengler, je ne sais pas si tu connais Jacques Wengler, sont restés très amers parce qu'ils ont dit on a formé des stagiaires. Après, ils étaient tellement en phase avec leur passion qu'ils ont pu diriger des théâtres et puis ils ont été... Alors, ils appellent ça la maison d'en face. La maison d'en face, c'est le ministère de la Culture. Et beaucoup d'amertume est restée comme ça parce que, comme s'ils avaient eux-mêmes, vous voyez, étaient à l'origine. Et puis après, ben, les autres s'en vont. Et puis alors, après, on est dans la culture, on n'est plus dans l'éducation.
L'élève dépasse le...
Alors, c'est bien justement qu'on renoue, je crois, hein, ce que vous avez très bien, très justement dit, qu'on renoue avec ça. Et que cette culture, elle puisse être aussi dans ce genre de stage, quoi.
J'en profite pour faire une petite publicité. Donc, nous-mêmes, ici même, nous sommes dans cette démarche, maintenant on appelle ça workshop, enfin, de toute façon, avec plein de noms, ça fait... Hein. Donc, on est dans un processus comme ça pour un spectacle qui s'appelle « Il était temps ». Enfin, je dis un spectacle parce qu'ils vont créer quelque chose qui sera joué au 31 décembre à la salle Berthelot. Et donc, c'est... avec Lutri Urbaine, parce que je prends toujours à l'envers et j'arrive plus à le dire. Lutri Urbaine, qui est dirigé par Jean-Louis Mécaille, qui est musicien.
Okay.
Ouais, et donc, les gens vont construire leurs instruments, ils vont apprendre à jouer, voilà, rythmique, etc. Et ça va donner lieu, ce sera représenté au soir du 31 décembre. Devant les Montreuil-Bois, enfin, moi, l'espèce de restitution publique. Donc, ils sont dans un processus de, comme ça. Et c'est vrai que porter des projets comme ça, eh ben, il faut que les gens aient donné du temps. C'est pas forcément cher, on ne demande pas, c'est juste l'adhésion, quoi. Mais il faut que tu donnes du temps, puisqu'effectivement, comme tu dis, c'est 5 semaines, ça dépend si c'est 5 semaines pleines ou diluées sur un semestre, quoi. Parce que, faut que les gens soient disponibles. Donc, voilà, ça s'appelle « Il était temps ».
Il y a une chose, en parlant des outils, on parlait tout à l'heure, il y a une cinquantaine d'années, etc., la télé. Je ne sais pas si vous avez déjà fréquenté des conteurs populaires qui, à l'époque où il n'y avait pas de télévision, c'est-à-dire au début du siècle dernier, étaient des gens qui arrivaient dans les villages et se proposaient de dire un conte. Et en général, les contes populaires étaient toujours des éléments fantasmagoriques, des mythes, qui étaient en fait un compte-rendu ou une exposition de la vie, mais transformée en symbole, avec des personnages, etc., etc. Bon, un peu comme les contes de fées. Mais c'est pas là que je veux en venir. C'est que pour sentir, non pas que chacun regarde dans son coin, mais que chacun est là pour vivre la même chose, il y avait un truc, un outil. Le conteur était comme là, et il disait à un moment donné, cric, Et tout le monde répond des cracks. Et il relançait les crics jusqu'au moment où il n'entendait qu'un seul crack. Et à ce moment-là, il commençait. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de créer une atmosphère réceptive où il pouvait entrer dans un monde fantasmagorique, féerique, etc. Et on en discutait après. Et ça, c'est quelque chose de très important que l'on fait dans des stages de psychopéda, quand on crée un groupe de rencontres, qu'on essaie de travailler. Alors là, c'est des outils qu'on utilise, alors, pas de cette façon, on a d'autres méthodes, mais qui arrivent au même résultat. C'est-à-dire faire en sorte qu'un groupe se constitue et commence à produire. Et c'est un peu comme une bombe atomique, ce truc-là. C'est que quand un groupe travaille, il travaille sur la tâche pour laquelle il est là. Mais pendant le temps qu'il travaille sur la tâche, il produit quelque chose d'autre, cette énergie collective. Et plus il travaille, plus le groupe se soude, plus il vit sa vie de groupe, plus il produit cette affectivité.
C'est pas pour Colanta.
Et elle ne se décharge jamais.
C'est la tentation.
Oui, non, ça n'a rien à voir. Ah, oui, Colanta. Oui, non, c'est pas ça. Hein, c'est pas le bon exemple. Hein, ça fonctionne pas tout à fait comme ça. L'affectivité dont je parle, c'est pas celle-là. C'est ce qui fait qu'un groupe vit que il va se passer des choses. Mais ça serait un autre sujet.
Bon exemple.
On ne dévoile pas tout hein, ce soir.
Ah, non, non.
Il y en a encore d'autres.
Hein. Mais c'est en heure encore, on leur avance. Et je ne voudrais pas que les gens va petit à petit, comme ça fait toujours, c'est triste. On va décider ensemble de partir, se quitter ensemble, en donnant rendez-vous. À moins qu'il y ait une question brûlante.
Qu'est-ce que vous nous proposez comme thème pour les prochaines fois?
Il est possible que on a un certain nombre de cordes à notre arc, à nos arcs. Mais l'idée était quand même d'essayer de travailler un peu plus sur l'histoire et sur la façon. On a un petit peu évoqué ces choses-là tout à l'heure. Oui. Mais peut-être avoir un regard un peu plus analytique sur l'histoire.
Sur l'histoire, juste pour compléter, c'est moi je le voyais par période. Parce que je trouve que là, c'était notre choix hein, d'aujourd'hui oui. d'en parler comme ça. Parce que pour pas que ce soit trop linéaire. Non, parce que l'éducation populaire, c'est pas comme ça, un long fleuve tranquille. Et c'est justement parce que c'est politique, c'est dans des contextes, des contextes sociaux, politiques particuliers. Et si on remonte, bon, on va dire depuis le milieu du 19e siècle, on va voir que ça se positionne pas du tout de la même façon. Ça touche pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes réseaux, c'est pas les mêmes mouvements, ça vise pas aux mêmes choses. Donc, je dirais une façon cassée un petit peu, mais justement parce que ce serait une autre façon de le voir. Hein, le côté un petit peu comme ça permanent qu'on a montré ce soir, hein, pour le remettre à chaque fois dans des périodes. Moi, c'était ça un petit peu ce que je proposerais.
Et troisième rencontre qui était intéressant, il faut que je vois ça avec le bureau, si on pouvait élargir vraiment, enfin, une invitation écrite, parce que je ne l'ai pas faite au CA, parce que ça va être vraiment ce rapport des professionnels et des bénévoles. Hein. À ce moment-là, j'ai convoqué moi, enfin, j'ai invité toute mon équipe à y assister. Donc, j'aimerais de l'autre côté ce soir, voilà, que ce soit pas plus de professionnels que de bénévoles. Et on va parler de qu'est-ce que c'est qu'un projet.
Oui.
Enfin, qu'est-ce que, voilà, quelle rencontre.
En gros, c'est pas sans conséquence qu'à partir d'une certaine étape historique, l'éducation populaire voit apparaître une revendication à la professionnalisation. Bon, en gros, ceux qui commencent à passer beaucoup de temps pour animer ceci ou cela, les activités, la vie interne de l'association, etc., soient confrontés au choix un peu personnel d'en faire une profession ou pas. Le rôle de la 5e République dans cette affaire, la création d'un certain nombre de diplômes, de formations, etc., etc., et les conséquences que ça peut avoir à la fois sur ce qu'on appelle plus éducation populaire, mais qu'on appelle animation, c'est pas de rien, éducation populaire, éducation socio-éducative, action socio-culturelle, animation, et puis après, je sais plus où on va, mais jeunesse, etc., bon. Donc, qu'est-ce qui se passe à chacune de ces étapes, par rapport à ce qu'on a essayé de définir ce soir? dans une association qui se dote, qui a les moyens de se doter de professionnels, comment l'objet même de l'association est assumé, est transporté, qui fait quoi? Est-ce que c'est sans conséquence qu'il y ait des professionnels ou qu'il n'y en ait pas? Quelles conséquences ça a? Comment est-ce que ça peut régénérer un projet? Comment ça peut le freiner, etc. Et je crois que l'idée, c'est pas de décerner encore une fois des labels du bien ou du mal, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe lorsqu'il y a, dans une association vivante, hein, c'est celle-là qui est intéressante à essayer d'étudier, d'analyser, de voir comment ces choses-là se passent. Hein, comment se... moi, il se trouve que je suis... j'ai été directeur de maison de jeunes, j'ai été formateur au diplôme de l'animation, j'ai été responsable syndical, en charge de porter des revendications de professionnels du simple secteur public et maintenant de l'ensemble du champ interprofessionnel. Donc, c'est un peu ce regard-là.
Moi, ce que j'aimerais bien, si tu veux, c'est effectivement, c'est la professionnalisation de bénévoles, parce qu'à un moment donné, c'est devenu un métier, la revendication, on peut voir tout ça. Et ce qui est intéressant actuellement pour moi, c'est qu'on puisse discuter, si tu veux, comment les professionnels travaillent avec les bénévoles, parce que tu as des structures où il n'y a plus de bénévoles du tout. Il ne reste plus que des professionnels. Ouais. L'inverse, ce n'est pas vrai, vraiment, dans les structures culturelles. Parce qu'effectivement, bon, moi, ce que j'aimerais, c'est effectivement cette articulation entre les deux, parce qu'il y a c'est une nécessité. Et j'aimerais questionner qu'est-ce que c'est que le projet. Qu'est-ce qui fait projet, quoi? Comment on se retrouve au quoi?
Moi, si je peux me permettre, même je serais, vous venez de dire que je n'arrête pas de casser les catégories, mais je suis pas, un professionnel peut être bénévole, quelquefois même dans le même endroit. Et c'est parce que, vous savez bien, on a une tendance à opposer les deux. Et en fait, je pense qu'il faut analyser ce qu'on fait tout au cours d'une journée, y compris dans le même espace. Hein. Hein, et voilà.
Par exemple, c'est tout à fait intéressant.
Mais c'est par l'opposition, c'est justement comment il y a des espèces d'aspirations qui peuvent être portées toujours par les personnes. Ouais. Bon, mais en même temps, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça dans le thème de projet? Qu'est-ce qu'on transforme? Et après, comment on le fait? Avec quel outil? Donc, il y a une espèce de transmission aussi des savoir-faire qui peuvent s'opérer dans des espaces de rencontres comme ça. Vous devenez à certains de faire une profession. Mais d'autres, les problèmes de dire bénévole dans d'autres associations.
Oui.
C'est marrant parce qu'en écoutant, je pensais à une discussion qu'on avait eue l'année dernière, la discussion de Loge avec Ferrer. Et là, quand on parlait de bénévole, on est totalement dans la déterritorialisation. Ça y est, je suis arrivé à le dire. Mais voilà, c'était totalement ça. On peut être bénévole et en même temps professionnel au même endroit, à des moments différents.
Oui. En plus, moi, il y a un mot que j'ai... Le mot bénévole, il est lourd, ce mot-là, hein, parce qu'on ne l'utilisait pas tellement avant. Hein. C'est un mot relativement récent.
Ben, on va se trouver un vocabulaire.
Parce que ça fait un peu charité, je trouve. Bénévole, c'est le bien, hein, celui qui veut faire le bien.
Non, c'est celui
alors, on l'utilise aujourd'hui comme ça, mais...
C'est celui qui fait ce qu'il fait gratuitement.
Ouais.
Et c'est sûr que...
Interroger un peu cette notion-là.
Oui, oui, oui. Hein? Et les notions à...
Bon, c'est le 2 décembre, on va se redonner rendez-vous peut-être. Comme il a dit au début, on va passer jusqu'à 3h du matin.
On est prêts, nous, hein? On est prêts, hein, Gérard?
J'ai une position parfaitement claire sur le sujet. Hein.
Ah, ben, il faudra revenir le 12, hein.
Que j'ai tout à fait développé et qui ne m'a pas forcément fait que des amis, notamment au CNAGEP, pour être bien clair. J'avais une position, je parlais de l'endroit où j'étais, c'est-à-dire de mon statut au Conseil national de la jeunesse et de l'éducation populaire, mon statut de syndicaliste.
Voilà.
Je pense que si je vous réponds de cette façon-là, c'est que je crois qu'il est, surtout par rapport au fait qu'on vient de dire qu'on peut être professionnel et bénévole dans la même structure, dans les mêmes lieux, forcément au même moment, qu'il est important de clarifier l'endroit d'où l'on parle lorsque l'on parle. Ça, c'est essentiel. Essentiel.
Bien, écoutez, moi, je voudrais qu'on garde un peu de suspense. Hein.
Oui.
On va plus discuter, puis on va être fatigué.
La prochaine fois, j'apporterai un peu d'archives.
D'accord. Parce que ça fait partie de mes méthodes, des méthodes, voilà, faire circuler des archives.
Ah oui, tout à fait.
La meilleure façon de parler d'histoire, hein, c'est aussi d'apporter des archives.
Ah oui,
c'est...
Ah oui, d'accord, je crois que vous allez...
On va s'arrêter là, il y a déjà une décharge.
Quelle organisation.
Mais écoutez, donc la prochaine rencontre autour d'éducation populaire, donc, c'est le 17 octobre. Mais entre-temps, il y a d'autres séminaires, je vous invite à prendre le... Pour ce qui concerne cette série de rencontres, le 17 octobre, suivi du 12 décembre. Voilà. Merci à vous.
Merci pour rester avec nous pour ça.